Dès que la fenêtre s'ouvrira sur le contenu de la disquette, vous remarquerez qu'elle n'occupe qu'une partie du bureau et laisse de la place pour d'autres objets. Allez, qu'est-ce qu'on fait là ? On ouvre ?
C'était presque synchronisé avec la fin de la musique de l'écran d'attente. Punaise, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Discate, l'émission tech de référence à la régularité helvétique et aux propos luxembourgeois. Je suis cette semaine accompagné par mes compères habituels. En fait, on est en mode disque 3 hein, depuis quelques temps. Caféine étant très très pris par la vraie vie et Yamato étant un bateau de guerre. La dernière fois, j'ai commencé par la diagonale tropicale. Cette fois-ci, je vais jouer l'horizontalité de souche, enfin de demi-souche, parce qu'il est kabyle. Comment vas-tu, Penta, aujourd'hui?
Écoute, ça va très bien parce que le MPS est enfin pris en charge dans PyTorch 2 et c'est une putain de bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est mon fond d'écran hein, pour ceux qui ont reconnu.
Oui,
sur
on avait compris.
Code Python.
On avait compris que c'était voilà. Du Python. Voilà, donc t'es content parce que le MPS est pris en charge dans PyTorch.
Ah ouais, putain, quel.
Est-ce que tu voudrais venir en discuter autour d'un bon dîner avec des amis à moi pour qu'on t'écoute
nous parler de mercredi soir.
Si tu veux, et je fais même des tours Eiffel en allumette, c'est ça la ref.
Voilà, c'est ça, exactement. Il a la ref. Il n'est pas qu'un techos, ça fait très plaisir. Situé à ta verticale directe, on retrouve Oni. Oni, Tekos devant l'éternel, comment vas-tu, cher Oni?
Ça va, tranquillement.
Ouais.
On est fatigué, mais c'est de la bonne fatigue.
La fatigue du travail. Il vaut mieux être fatigué du travail que fatigué de rien du tout, moi je vous le dis.
Ouais, ce serait inquiétant. Hein.
Ouais, quand même. Hein. au programme aujourd'hui, des subs, merci. Au programme aujourd'hui, bien sûr, on va parler carte graphique, parce que vous savez qu'on en mange au petit-déj. On va parler évidemment licenciement, on fera peut-être un petit point métaverse.
Si on en mange au petit-déj.
Ouais, les licenciements, on en mange beaucoup. On fera peut-être un petit point métaverse également. On va parler de quoi ? On va parler de Gigabyte, marque parmi les meilleurs de la galaxie. On va parler de Nintendo, on va parler de plein de choses. Et le sujet du talk, je vous avoue qu'on n'en a même pas discuté, donc c'est Penta qui a proposé un truc, on va parler de ça aussi. Bref, un programme riche en calories, 5 news et légumes par jour, c'est le conseil de l'autorité sanitaire. C'est parti, on va commencer tout de suite avec justement le point récession. El famoso punto recessiona, le point récession qui est très intéressant puisque vous pouvez constater, si vous avez la mémoire il y a deux semaines, hein, le dernier Discate, on disait, oh là là, Mars quand même, c'est gentil, hein. Dis donc, ils sont qu'à 8000 et quelques licenciements sur le mois de mars, et deux semaines plus tard, on pète quasiment les 55 000 licenciements. GG à la Silicon Valley, bravo. Alors, très belle perf. Alors évidemment, au niveau des coupables, bon bah il y a Accenture hein, qui vire 19 000 personnes, ça fait beaucoup. Ça fait une.
C'est pas loin du record, non, 19 000.
Bah 19 000, j'ai l'impression que c'est. Ouais, attends. Parce que Amazon, c'était 18 000.
En plus, hein. Ouais, mais là, c'est du. Tu parles en one shot parce qu'Amazon, ils virent tous en trois fois, en fait. Donc là, c'est la première tranche, tu vois.
Ouais, bah une tranche à 19 000, c'est pas dégueulasse quand même. C'est vrai que Amazon, ils ont fait 18 000 en janvier et là, ils font un petit 9 000. Petite forme.
Ah oui.
Oui, petite forme Amazon. Et puis évidemment, le troisième, hein, c'est Meta. 10 000 personnes. Alors qu'ils avaient fait 11 000 en novembre. C'est fou comme on s'habitue au pire. Hein. C'est quand même incroyable. Du coup, bah, le mois de mars passe devant le mois de février et il n'est pas fini.
En cumulé, je pense qu'au total, ça doit faire un sacré paquet hein, quand ils pensent. Hein.
Ah bah ça fait. Si, c'est écrit
depuis
là.
Un an, là
ah bah c'est écrit. Attends, c'est écrit. Ta-ta-ta. Alors en 2023, il y a eu 708 licenciements avec 211 000 personnes impactées. Ça fait 2400 personnes par jour. En 2022, il y en avait eu 1535. C'est-à-dire qu'au mois de mars, on est déjà quasiment à la moitié de 2022. Donc on a 3 mois d'avance. Et ils avaient viré 241 000 personnes l'année dernière. Là, on est à 211 au mois de mars. Hein.
Putain, c'est un massacre.
Ah,
mais en même
là,
temps, c'est janvier hein, qui fausse la moyenne. Hein, parce que tu regardes janvier.
Ouais, janvier, là, ils ont tout arraché. Ouais. Mais moi, je pensais qu'ils essaieraient vraiment de mettre la max avant la fin de l'année fiscale, puisque chez eux aussi, ça se
Ça
termine
y est,
en
ils l'ont
mars.
Mise, hein, ils l'ont mise en janvier, parce que justement,
Oui, c'est
c'était
vrai, c'était.
en mars-avril, la fin de l'année fiscale. Donc,
Ouais,
c'est
ouais,
sûr.
ouais.
Hein. Ils ont essayé de sauver le dernier trimestre, mais.
Ah, c'est gosse beau. Hein. En tout cas, voilà. Donc, on continue à suivre ça. Si vous avez de la famille qui travaille dans le métaverse. Prévenez-les. Prévenez-les que le temps est à l'orage. Si vous-même, vous travaillez dans le métaverse, j'ai envie de vous dire, vous saviez très bien que c'était de la couille. Donc, donc en
J'espère que
fait,
vous
voilà.
avez pris le max de thunes avant de vous faire inévitablement virer.
Donc, voilà. Non, en vrai, vraiment, bon, oui, ceci est triste, mais on rappelle quand même que depuis le départ, tout le monde s'accordait à dire que c'était de la fumisterie, quand même. Donc, encore une fois, La version officielle, hein, c'est que les gens ont sur, enfin les compagnies ont surembauché pendant le Covid. Donc là, on revient un peu à l'état normal. Voilà.
La nature reprend ses droits.
Exactement. Y a Tux qui dit dans le chat, si vous travaillez dans le métaverse, reconvertissez-vous dans l'IA. Exactement.
Alors, même pas, même plus en fait.
Ah!
Même plus.
Ah putain, le point IA.
Non,
Allez, c'est parti.
j'ai envie de te dire, reconvertissez-vous dans le prompt de chat GPT en fait. Voilà.
J'avoue. Ouais.
C'est vrai.
Parce que là
C'est un
justement,
métier, hein.
enfin,
C'est un métier.
là vu ce que, enfin, tous les trucs que je fais, que je teste en ce moment avec ChatGPT et mes IA, c'est de la
Mais
folie.
l'IA, tu vas peut-être en parler tout à l'heure, Pintin, mais l'IA, c'est devenu le nouveau cheval de bataille de Nvidia, hein, par ailleurs. Hein.
Eh bah oui,
Ils y croient.
Bah oui, bah ça fait partie de la news, ouais, puis du talk.
Ouais. Ah bah tiens, ça tombe bien. On va pas du tout parler de ça. Si, allez, on va parler de ça. Penta, on va parler. On va parler du coup de Nvidia justement pour rester dans les sujets de niche.
Bah oui, Nvidia, enfin le CTO de Nvidia, donc CTO c'est Chief Technical
C'est le
Technology
directeur technique
Officer.
quoi.
Voilà, c'est le directeur technique en fait qui a balancé un. Oui, en fait, les cryptos, ça apporte rien à la société, et c'est l'IA apporte à la société, sauf que le mec cache qu'ils ont gagné des milliards et des milliards grâce à tous les mineurs de crypto, les crypto bros. Donc le mec, comme on dit, enfin. Voilà, moi je dis, il crache dans la soupe, mais il crache pas sur ce que ça rapportait à
Ah,
cette société.
moi j'aime bien les gens qui crachent dans la soupe parce que moi-même je crache régulièrement dans la soupe hein, quand il s'agit d'insulter Webedia par exemple, qui incroyablement se termine de la même manière que Nvidia, donc ça me surprend pas.
Donc du coup, si tu veux, ce qui est marrant, voilà, c'est ça, c'est que moi, comme ils sentent que le vent a tourné, que les cryptos c'est terminé, tu vois, ben, maintenant ils veulent se faire paraître comme les grands chevaliers verts, du coup, vu qu'Nvidia ils sont verts.
Ah oui,
Et
c'est vrai.
quelques petits chiffres en fait, donc Amazon ils ont acheté 20 000 GPU H100, Oracle a acheté 16 000 GPU H100, et ChatGPT donc a été entraîné sur 10 000 GPU H100. Donc ça vous donne à peu près un ordre d'idée de ce que l'IA consomme en GPU. Donc tu m'étonnes que le CTO dit et en fait voilà l'IA ça fait avancer la technologie, ça fait avancer la société et pas les cryptos parce qu'en fait le mec il sent bien que maintenant les ventes redécollent grâce à l'IA et ils en vendent par une palette entière.
Ouais.
Un retournement de veste qui a fait trembler Taïwan quoi.
Mais
Ouais,
je
sachant qu'en
sais pas
plus
si
pour finir ce qu'il y a c'est que Nvidia avait sorti sa gamme de GPU dédiée crypto qui a fait un four
les
complet.
CMP.
Mais Alex, CMP qui a fait un four complet, tu vois.
C'est
Donc les
ça
mecs ont toujours bien
qui est
l'épaule.
intéressant. Voilà, c'est ça qui est
Et
intéressant.
en plus, et les vrais crypto bros se sont très vite tournés après vers les ASIC, si tu veux. Donc à un moment donné, tu vois, quand ça a fait crack comme ça, le mec, il s'est pas dit, ah bah non, en fait, il a pas dit il y a 2 ans, c'est pas bien, faut pas en vendre. Non, non, le mec, il a fermé sa gueule, il a vendu tout ce qu'il a pu vendre, il a optimisé ses modèles comme il a pu l'optimiser, tu vois. Et maintenant, il la ramène en mode, non, mais de toute façon, les cryptos, c'est de la merde, ça fait pas avancer à la société.
Mais
Un
est-ce
mec,
que.
ferme ta gueule, quoi. Tu vois,
Mais
c'est
oui,
tout,
mais.
ferme ta gueule.
Est-ce qu'on ne salue pas. Est-ce que dans la tech. Parce que dans la tech, on appelle ça pivoter.
Ah non, mais.
Dans la vraie vie, on appelle ça retourner sa veste. Mais dans la tech, ça s'appelle un pivot. Bon, est-ce que finalement, on peut pas saluer quand
Ah,
même le
c'est
fait
même
qu'ils
pas un
sont
pivot, parce
très
que bon,
girouettables?
ils sont dans l'IA depuis le début. Tu vois,
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est
c'est dire dans
qu'effectivement,
l'IA,
à un moment donné, ils essayaient de fournir les mineurs de crypto. Tu l'as rappelé, ils ont sorti effectivement leur carte graphique sans HDMI, là, uniquement
sans RT aussi, il n'y avait
voilà, et
pas de
sans
NVT, il
RT,
n'y avait pas de Tensor, il n'y avait pas tout ça.
pour faire, pour faire uniquement du calcul de brutasse. Et là, maintenant, ils disent, bon, bah, le crypto. Parce que c'est vrai que On fait des points récession, mais je fais pas un point cours des cryptos.
Ce qui est magique, c'est quand tu écoutes ce que dit exactement le CTO, parce qu'il y a plein de déclarations dans l'article, et il y en a une où il dit « Vous savez, moi, j'ai jamais cru que les cryptos, ça allait apporter quoi que ce soit à la société. » Alors qu'il y a encore un an, le type, il vendait de ouf des trucs pour les cryptos. C'est génial.
Ils sont forts. Ah, franchement, oui. Franchement, bravo. Bravo, bravo à Nvidia.
La politique, ce gars-là, le dimanche, tu vois.
Ouais, ça sonne chez moi, bougez pas.
Un livre à Amazon ?
Non, une maman qui vient chercher son enfant, c'est presque pareil. Alors, du coup, on va basculer sur la news suivante. Qu'est-ce qu'on a en news suivante ? Voyons voir, Oni... Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, bah, c'est pas grave, elle va monter, elle connaît le chemin. Oni, tu vas nous parler... Bah tiens, on va rester chez Nvidia ? Mmh. Hein, ça c'est...
Attends, dis-moi laquelle, parce que j'en ai deux chez...
Ah oui, les 3080 qui prennent feu, là.
Ça va te plaire, ça va te plaire.
Oh, mais ça, j'adore.
Parce qu'effectivement, le week-end dernier, c'était la bêta ouverte de Diablo 4. Donc la
évidemment,
deuxième bêta, puisque la première, évidemment, il fallait absolument précommander le jeu pour y avoir accès. Et là, ce week-end-là, il y a beaucoup plus de gens qui ont pu y jouer puisque c'était ouvert. Et justement, beaucoup de gens qui ont découvert le jeu, mais aussi les problèmes qu'il apportait. Et notamment le fait que si votre carte graphique était un petit peu trop puissante, elle avait tendance à pouvoir cramer sur le jeu. Alors, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé pour que ça arrive. Blizzard est actuellement en train de mener l'enquête sur ses forums pour comprendre l'origine du problème. On soupçonne, cela étant, un problème qui était déjà arrivé avec la bêta de New World l'année dernière, le MMO d'Amazon, qui avait aussi fait cramer des 3090 à l'époque. Et ce qui s'était passé à ce moment-là, outre quelques problèmes de soudure sur certaines cartes VGA, c'est que dans les écrans fixes, et notamment dans les temps de chargement, le jeu ne prévenait pas le GPU ou le reste du PC qui avait rien d'autre à afficher et que c'était pas la peine de rafraîchir constamment l'image. Et donc, le GPU, vu qu'il devait afficher une image fixe en 2D et que, il avait rien de mieux à foutre, il la renouvelait plusieurs milliers de fois par seconde, ce qui le conduisait à cramer au bout d'un moment. Ouais. Et on soupçonne que c'est ce qui s'est passé aussi avec cette bêta de Diablo 4, puisque la plupart des gens qui témoignent de ce qui leur est arrivé et qui donnent les détails disent que ça leur est arrivé généralement sur des cinématiques, des moments où ce sont généralement des vidéos précalculées, donc pas vraiment des trucs, mais où apparemment le GPU continuait à générer des images au fur et à mesure et donc a fini par cramer.
Ouais.
En tout cas, c'est ce que Blizzard devra déterminer et les constructeurs concernés devront déterminer, puisque justement, ce sont principalement des 3080 Ti qui ont cramé sur ce week-end-là, avec une exception, un modèle de 6900 XT qui a été répertorié comme étant mort ce week-end-là. Donc, est-ce que c'est le même problème ou est-ce que c'est un hasard ?
Non, mais ce qui nous intéresse, c'est la première ligne de ce tableau.
Et donc, ce qui est intéressant, si tu regardes le tableau, effectivement, de chez Tom's Hardware qui a recensé les cartes graphiques qui sont mortes, on retrouve beaucoup de...
Rien dit.
De chez Gigabyte.
J'y suis strictement pour rien. Gigabyte, moi j'adore, vous le savez, c'est une marque que je chéris. Et je suis absolument pour rien dans les cas de cartes graphiques grillées de cette marque-là, comme par hasard. C'est quand même incroyable. Bravo.
Ah bah non, mais franchement, c'est fou le hasard. Donc voilà, il y a principalement effectivement des cartes qui viennent de chez Gigabyte qui sont mortes sur le jeu. Alors, est-ce la faute à Gigabyte ou pas, c'est pas...
J'avais pas vu, attends, ils sont aussi en troisième et en quatrième ligne.
Oui, en tout, il y a une bonne dizaine de cartes identifiées comme Gigabyte qui sont mortes sur les 18 recensées par Spartan's Hardware.
Incroyable.
Et il y a une VGA aussi, ce qui est, mine de rien, assez intéressant, parce qu'une VGA, d'une part, les cartes de l'année dernière qui avaient cramé sur New World, c'était aussi principalement des EVGA, il n'y avait pas que ça, mais c'était beaucoup d'EVGA, donc il y a peut-être un problème de conception chez EVGA, mais c'est aussi intéressant parce que, tu le sais peut-être, VGA a arrêté de faire des GPU cette année, enfin même à la sortie des RTX 4000, ils avaient annoncé qu'ils allaient arrêter de bosser avec Nvidia pour faire leur GPU, ce qui voulait dire que vu qu'ils faisaient que ça, ils arrêtaient essentiellement leur division GPU. Et donc, ils avaient annoncé également que leur stock restant de GPU, donc de RTX 3000, allait prendre fin vers la fin de l'année 2022. Là, on est en mars 2023, la question qui se pose, c'est les gens qui ont acheté une VGA, une 3080 Ti typiquement, et qu'elle a cramé alors qu'elle est potentiellement encore sous garantie, comment est-ce que VGA va gérer le truc, vu qu'ils peuvent priori plus la remplacer. Il paraît qu'ils ont plus de stock. Est-ce qu'ils vont simplement rembourser les gens ou trouver une autre manière de faire?
Mais attends, tu disais que c'était lié à en fait une surchauffe sur des images 2D, donc même pas de calcul énervé.
On sait pas exactement à quoi c'est dû pour l'instant, mais si c'est le même problème que pour New World à l'époque, et ça, il semblerait que ce soit le cas, ça ce serait des passages justement où tu es sur une image fixe. Typiquement, normalement, sur une image fixe, le GPU il bosse pas parce que il génère une image fixe et puis voilà, y a pas d'embrouille. Mais vu que ça lui demande pas beaucoup de temps de calcul, ça, c'est très très court de générer une image fixe pour un GPU, surtout si c'est pas une scène très lourde en 3D. Ouais. Bah, il va la régénérer plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ait autre chose à afficher. Et quand tu as un GPU qui monte à 2, 3, 4000 FPS, ça peut poser des problèmes, de surchauffe, de trucs comme ça. Et la solution à ça, c'était déjà le cas pour New World, elle est toute simple. Hein. Tu colles un limiteur de FPS sur ton jeu, c'est con, c'est déjà incroyable qu'il n'y en ait pas un par défaut dans Diablo, par exemple.
Mais en fait,
un limiteur de FPS sur ton jeu où tu actives le V-Sync qui va automatiquement synchroniser le FPS du GPU sur celui de l'écran, par exemple. Mais tu fais quelque chose qui va justement éviter ce genre de problème. Et c'est pour ça que d'habitude, nos GPU ne crament pas sur les jeux parce qu'il y a d'une manière ou d'une autre un limiteur de FPS.
Soit
dans le pilote, soit dans le jeu.
On parle de Diablo, donc Blizzard. Je veux dire, ils ont fait des jeux quand même, ils savent comment ça fonctionne.
Ben c'est pour ça que c'est surprenant
comment
aussi.
Comment c'est possible?
C'est pour ça que c'est surprenant aussi. Alors après, on ne sait pas, encore une fois, je répète, hein, mais on ne sait pas si c'est vraiment la cause du problème. Là, pour l'instant, Blizzard essaie de comprendre parce qu'ils ont posé la question. Il y a tout un message sur leur forum où ils demandent aux gens qui ont eu le problème de tester plusieurs hotfix qui pourrait ou pourrait ne pas marcher, et si jamais ils récupèrent pas l'image comme ça, de leur expliquer, de leur faire un post détaillé de je jouais avec tel matos sur telle carte, j'avais tel réglage activé ou pas activé, etc., pour qu'ils essaient de comprendre.
Ce qu'il faut tirer de comme enseignement de toute cette sombre histoire, c'est qu'il ne faut pas jouer au bêta, tout simplement.
C'est con, c'est quand même intéressant de jouer au bêta, c'est vrai que c'est dommage. Mais effectivement, tu testes une version du jeu qui n'est pas finie.
Et voilà, et qui te finit ta carte. Moi, je trouve ça très très beau comme message. Du coup, on va quand même rester dans le gaming. Avec moi, tiens, ouais. Alors, une petite news comme ça, parce que ça fait plaisir, ça coûte pas cher. Figurez-vous que donc Nintendo a reveal les premières images. Ils ont fait 10 minutes de gameplay, il me semble, de Zelda. Le prochain Zelda, là, Tears of the Kingdom, qui tout comme Breath of the Wild ne veut strictement rien dire. et du coup, évidemment, Nintendo étant pas né hier, ni même avant-hier, évidemment, vous vous doutez qu'il va y avoir des trucs collector qui vont arriver, et c'est le cas de la Switch OLED édition Zelda. Délicieuse. Regardez-moi ces manettes, ouh là là, Pentaro en mode érectile. Regarde, Pentaro, la manette bicolore, là. Qu'est-ce qu'elle est belle. La manette
bicolore, je l'avais pas vue, tiens, attends.
Ouais.
Ah ouais. Pourquoi il y a une branche qui est blanche?
Et une branche qui est noire. Je pense qu'il y a c'est un symbole dans le jeu, ça. Le yin, le yang, ouais, je pense qu'il y a un délire comme ça. Alors évidemment, la branche blanche va devenir jaune, hein, parce que ça, c'est le principe de tous les trucs blancs dans l'informatique, mais bon.
Et puis les sticks vont drifter, toutefois.
Évidemment. Ah non, ça, ils ont réglé ça, non?
Pas sur les Joy-Con. Alors, j'ai une manette pro à la maison, effectivement, elle n'a pas les sticks qui driftent, alors qu'elle a genre 4 ou 5 ans.
Ouais.
Par contre, les Joy-Con...
c'est toujours la même.
Tôt ou tard, ouais. Ouais.
Quelle tristesse. Bon, en tout cas, voilà, donc la console est de toute beauté, n'est-ce pas, avec un dock dédié incroyable. Ça sera disponible, je sais pas quand, fin avril, il me semble. Non, attends, ils disent.
Le jeu sort en mai. Le jeu sort mi-mai.
Le jeu sort, ouais, le 12 mai, et le 28 avril, voilà, dans un mois. Dans un mois, si vous aimez la Nintendo Switch, moi perso, je m'en bats les reins, vous pourrez acheter cette formidable, formidable console collector. La mienne prend la poussière, même ma fille ne joue plus à la Switch pour vous dire, je ne sais même pas où est la console, c'est incroyable. Donc voilà, moi perso, je suis pas Yanklar, mais je sais que dans le chat, il y a des weebs et il y a des NSX, donc voilà. Penta, on rebascule chez toi, Pentaro. Cher Pentaro, tu vas nous parler tout de suite, implicitement. Est-ce qu'on reste dans... Oh, on peut faire un petit virage multimédia, tiens. Allez, hop. Tu vas nous parler Sonos.
Eh oui, Sonos, ma marque de cœur pour tout ce qui est audio. enceinte et barre de son.
Ouais, pour tout ce qui est format propriétaire relou aussi, quand on n'a pas envie d'avoir du Apple, ben on prend Sonos et c'est pareil en fait. Voilà.
Pourquoi ?
Bah parce qu'il y a eu plein d'histoires, de trucs pas compatibles, de machin, il faut avoir les bonnes versions pour qu'elles parlent entre elles, gna gna gna. Il n'y avait pas une histoire comme ça ?
Ils ont backdash direct, hein. Ils se sont fait enflammer, ils ont backdash. Hein.
Ah d'accord.
Tu parles de la fameuse passage à la version S2, en fait, où ils avaient dit une partie de vos enceintes, etc., ne fonctionneront plus avec la S2. Et en fait, ils se sont pris tellement de tacles dans la gueule qu'ils ont fait un beau backdash et tout est compatible et tout fonctionne très bien.
Ouais.
Preuve en est, ouais, moi, mes S5, mes Play 5 Gen 2 fonctionnent nickel et tous mes trucs fonctionnent nickel, en fait. Donc, comme quoi, quand on sort les doigts du cul et qu'on développe un peu, eh ben, on peut trouver des solutions, tu vois. C'est incroyable.
Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'ils vendent là, à part une enceinte à 500 balles ?
Ah, ils en vendent deux, en fait. Ils vendent la RA100 à 279 € et la RA300 à 499 €. Et en fait, ça t'apporte donc le son spatial. Tu sais, parce que là, en fait, de plus en plus d'artistes maintenant sortent des morceaux mixés en fait en son spatial.
Arrêtez de faire ça, putain, c'est horrible.
Ou alors ressortent des albums remixés en audio spatial, notamment le Sgt. Pepper's des Beatles, meilleur album de tous les temps, avant Off the Wall, en fait, et remixé en audio spatial. Du coup, bah, il fallait des enceintes.
Ne faites pas ça, putain.
Eh ben, si, c'est fait. Voilà, donc la 100 et la 300. Donc okay. Le prix, donc 279 € pour la 100, 499 € pour la RA300, et aussi ça apporte le support Dolby Atmos. Donc en fait, si tu veux une installation Dolby Atmos chez toi, bah en fait tu prends une barre de son Sonos, tu fous deux RA300 en satellite et ça te fait une installation Dolby Atmos dans ton salon. Voilà, donc c'est assez incroyable. Moi, j'ai hâte de l'essayer. Hein. Franchement, si un jour je peux mettre la main sur une RA300 et la tester, je serais curieux de voir. Alors, les Sonos, en fait...
Justement, ça dit... attends, parce que Onir, dans le chat, il dit que la RA300, les numériques parlent d'une merde sans nom pour utiliser la technologie Dolby Atmos.
Ah, écoute, moi, j'ai hâte de l'essayer pour voir si c'est...
T'es mal à taille des rats. Ah, bien vu.
Et en fait, l'idée, du coup... Alors, moi, les Sonos, en fait, une, c'est pas terrible. Par contre, deux, c'est jouissif.
Ah,
moi,
c'est un peu comme les Maghrébins avec Brice Hortefeux, alors. Ok.
Quoi ?
Vous avez la ref ou pas ?
Ah oui, c'est
moi j'ai la ref.
Ah oui, disait quand il y a
quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs.
Là, il en faut deux pour que là dans le son quand on a deux, c'est vraiment incroyable. Quand c'est seul, je trouve que c'est pas ouf.
Ouais.
C'est bien mais c'est pas ouf. Par contre, deux, c'est juste incroyable. Donc voilà, donc c'est si vous voulez investir là-dedans, bah écoutez, moi je dis c'est quand même du bon. Et ce qui est rigolo, là où il y a quand même ça a shifté pas mal, c'est que du coup, vous savez, ils sont en guerre juridique avec Google, donc du coup il y a plus le Google Assistant qui est activable ou non dans le.
Ouais, je savais pas ça qu'ils étaient en guerre. Pourquoi ils sont en guerre ?
Si. Bah, parce qu'en fait Google leur a volé justement la technologie multiroom.
Ouais.
Et donc Sonos avait eu le droit d'intégrer Google Assistant dans leur Sonos en fait. Et du coup, Sonos a porté plainte contre Google pour vol de la techno multiroom. Google a porté plainte du coup contre Sonos en disant « Ouais, regardez, ils ont intégré notre assistant alors que ça faisait partie du deal. » Enfin bref, voilà. Donc du coup, il n'y a plus que Alexa ou l'assistant Sonos, un truc de base qui dit en gros « chanson suivante, stop, play ». Ils ont mis un bouton physique pour couper le micro. Tu vois, c'est toujours mieux d'avoir un bouton physique où tu
claques quand pour les paranoïaques.
Ben ouais, puis même c'est quand même toujours mieux. C'est fait à 48% de plastique recyclé, donc ça c'est bien aussi. Maintenant, il y a une prise jack et Ethernet, mais via adapteur USB-C. Donc en fait, maintenant, tu n'as plus qu'une prise, une entrée USB-C. Si tu veux une prise jack, et ben en fait, il faut acheter l'adaptateur. Et si tu veux mettre de l'Ethernet, et ben il faut acheter l'adaptateur. Donc ça aussi, c'est nouveau. Ça fait
c'est aussi très Apple dans l'esprit, effectivement.
Ah ouais, c'est fou l'Apple.
Donc c'est Bluetooth, ça c'est nouveau. Donc ça, maintenant, ça supporte le Bluetooth, AirPlay 2, Wi-Fi.
Ah, parce qu'avant, c'était pas Bluetooth en plus, ces trucs-là ? C'est-à-dire, il fallait passer par du Wi-Fi ou pas ?
Wi-Fi ou jack. Il y avait une prise de jack.
Oh.
Et de toute façon, le Bluetooth, pour le son, c'est le mal. Hein. Mais bref,
ça, oui. C'est un oui, débat, oui, ouais. Oui, mais bon, on écoute ensuite, des trucs compressés, donc ça change pas grand-chose.
La techno Trueplay. Alors, la techno Trueplay, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a vendu Sonos. C'est
Trueplay comme Trueplay ?
Comme Trueplay, ouais, c'est ça.
Okay.
Et en fait,
je comprenais pas, je croyais que c'était comme
smartphone. En fait, tu scannes ta pied, tu balances, tu bouges ton smartphone comme ça dans le.
Ah oui, il fait une analyse acoustique.
Ça s'adapte automatiquement le son et c'est bluffant. Enfin, moi, je kiffe. C'est compatible avec la plupart des services de streaming, sauf que max 24 bits et 48 kHz, donc ça supporte pas le son de très haute fidélité. Donc si vous avez des morceaux en 192 kHz en 24 bits, eh ben non, ça ne le supporte pas. Et Sonos, de toute façon, les gens n'entendent pas la différence. Et c'est vrai à 99,99%. Et les mecs qui entendent la différence, de toute façon, ils n'achètent pas du Sonos pour écouter leurs morceaux en 192 kHz. Donc, de toute façon, ce n'est pas la cible.
Ils achètent des câbles d'oreilles à 3000 balles. Ouais.
Exactement.
Et un peu de respect pour les audiophiles, il en faut.
Et voilà, donc c'est bah, voilà, donc compatible audio spatial et
donc 499 balles, mais tu nous dis de toute façon il en faut deux.
Oui, si tu vas vraiment avoir une claque dans ta gueule, il en faut deux quoi.
Voilà, donc 800 balles, 1000 balles pour équiper tout ça.
Oui, c'est 1000 balles, oui, 800 balles, n'importe quoi.
Ce que j'ai avec les Play 5 Gen 2, franchement, ça défonce sa race. Donc voilà.
Et par rapport à comment s'appelle cette marque de branleur là? Il y a Apple, voilà, il y a Apple, mais la marque française. Quitte à être vraiment dans le secouage pénien, là, je veux dire.
Justement, les deux Vialet, enfin, moi j'ai pu écouter plusieurs fois du deux Vialet et j'étais vachement déçu.
Ah.
Dans le sens où, alors, la restitution est ouf, mais le son est vraiment trop neutre. Tu vois ce que je veux dire?
C'est ça qui est bien. Les vrais audiophiles, eux, ils veulent le son plat.
Ouais, mais quand t'écoutes de la musique sans couleur, tu vois, c'est quand même ultra triste, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que t'aies quand même un petit truc, tu vois. Donc les mecs te disent, ouais, la restitution, elle est hyper fidèle, ok, sauf que ton truc, il est complètement plat, quoi. Il n'y a rien de. Moi, je suis vraiment pas fan de Devialet. En plus, pour le prix que ça coûte, enfin, genre, vachement, pour une Devialet, t'achètes 5 trucs Sonos, quoi. C'est...
Non, la Phantom Mini, elle doit être à 1200 balles.
Oui, bah voilà, donc ça te fait déjà 2 ERA, ça te fait 3 ERA, enfin 2 ERA et demi, 300,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Sinon, tu prends le truc, la Freebox à la con, là.
Ah oui, la Freebox triangulaire, là.
Dévialet, ouais.
Ouais, la Delta, là. Non, ouais, c'est
pas
ça,
génial.
Ah, c'est
donc,
pas génial.
Si vous avez des stands de Vialet, eh ben, écoutez, mettez-y une tête, demandez-leur de mettre un morceau que vous connaissez par cœur, et comme ça, vous entendrez bien, en fait, que le fait que c'est complètement plat, quoi.
Ouais, mais encore une fois, moi j'ai parlé avec des acoustisonos, ils m'ont dit le son plat c'est justement ce qu'on veut, nous. On veut pas de trucs qui te rajoutent des basses que t'as pas demandé.
Ah oui, non mais l'ingé son qui vide ça, oui, et je comprends que le mec il veut un truc plat. Sauf que moi je suis pas un ingé son et j'aime bien avoir un son qui vibre, tu vois.
Ouais.
Et j'aime bien avoir un peu de basse, un peu de rondeur, tu vois, ou quand t'écoutes des instruments, bah tu ressens un peu de l'émotion, pas un truc plat qui te crache le truc tout plat, quoi.
Ouais, non, je comprends. Voilà,
un
donc
peu dans la vie, tu vois.
Le conseil conso, 500 balles pour des enceintes...
X2, du coup.
Oui, 500 balles x2 pour des enceintes de branlos, ok, très bien, let's go. Oni, mon cher Oni, un petit point sur les 4070.
Oui, les 4070, alors... Les 4070 qui sont attendus pour l'instant, puisque comme tu le sais, pour l'instant, les rares RTX 4000 qu'on peut s'acheter, c'est toujours bien au-dessus de 1000 balles et c'est toujours pas pour le commun des mortels. Alors on attend les cartes un petit peu en dessous, qui sont généralement les cartes les plus demandées par les joueurs, donc typiquement les 4070 et les 4060. Et pour ces cartes-là, elles ne sont toujours pas annoncées officiellement par Nvidia, mais on s'attend à ce qu'elles soient annoncées le mois prochain, courant avril, et qu'elles sortent dans la foulée. Et surtout, les constructeurs partenaires d'Nvidia commencent pour une fois n'est pas coutume d'ailleurs, concernant Nvidia, mais commencent déjà à avoir des infos sur ce qu'ils vont eux-mêmes sortir le mois prochain. Donc c'est pas mal. Et du coup, ces infos, elles fuitent un petit peu partout dans la presse. Et depuis quelques jours, l'info principale qui fuit autour des 4070, c'est qu'elles pourraient revenir à l'ancienne prise ATX, tu sais que les RTX 4000, ouais. Donc principalement les founders, mais aussi les cartes partenaires, utilisent désormais la prise ATX 3, la toute petite, là, avec 16 broches,
ouais.
Qui manifestement a posé déjà beaucoup de problèmes de conception chez
oui,
Nvidia.
Oui, ça cramait et tout.
Voilà, ouais. On a vu des GPU qui ont cramé, etc. Avec ça. Et surtout, donc du coup, surtout, ce sont des prises qui sont utiles pour les très très hauts TDP, donc typiquement celui de la 4070, de la 4090 qui monte à plus de 400 watts, mais pour des cartes un peu plus modestes, notamment la 4070 qui pourrait tourner autour de 200 watts, ça a du sens de revenir à la prise ATX2, premièrement parce que, eh bien, pour 200 watts, tu peux très bien les faire passer sur une prise ATX2 à l'ancienne en combinant avec la puissance.
Oui, il n'y a pas de risque que ça crame, quoi.
A priori, il n'y a pas de risque. Et surtout, la logique derrière ça, ce serait que les gens qui achètent les cartes les moins chers, donc typiquement une 4060 ou une 4070. Ce sont des gens qui ont généralement un budget un peu plus limité, sinon ils iraient taper directement le très haut de gamme, et qui du coup vont acheter un nouveau GPU pour remettre à jour leur config, mais qui vont pas changer toute la config, et notamment pas changer la LIM. Le problème, c'est qu'une LIM avec une prise ActX 3, ça coûte très cher. Encore aujourd'hui, et du coup c'est pas un achat prioritaire pour beaucoup de gens, c'est malheureux, mais déjà ne négligez pas votre alimentation quand vous faites votre config, c'est hyper important, mais voilà, c'est pas un achat prioritaire quand tu renouvelles ta config, et donc du coup ils se disent plutôt que de sortir une carte avec une prise que les gens vont pas pouvoir utiliser et pour laquelle ils vont pas vouloir racheter une alim, donc des cartes qui vont moins bien se vendre, on va plutôt revenir à l'ancienne prise. Comme ça, les gens qui ont juste 400, 500, 600 balles à mettre dans leur GPU, ben, ils vont les mettre. Ils n'ont pas besoin d'acheter une nouvelle Alim et ils pourront quand même acheter une RTX 4000 sans s'emmerder. Donc, ils reviendraient à cette prise-là pour ces modèles.
Donc, c'est une prise low cost, en fait, en gros.
Ben, c'est devenu de fait la prise low cost. C'était le standard jusqu'à l'arrivée de la TX3, mais effectivement, ça devient de fait la prise low cost. Et surtout, le détail qui vient s'ajouter à ça actuellement, c'est que d'une part, ces prises-là concerneraient uniquement les cartes partenaires, donc les Asus, MSI, Gigabyte et compagnie, mais ne seraient pas sur la Founders Edition. Elle garderait la prise.
La prise beau gosse.
C'est le côté un petit peu, tu vois, ils veulent faire le produit classieux quand tu vas acheter la
Founders Edition. Mais du coup, est-ce que ça, d'après toi, ça se répercuterait sur le potentiel prix de vente, le fait qu'elle coûte moins cher à construire quand même?
Ça pourrait, c'est difficile à dire pour le moment, mais ça pourrait effectivement très légèrement faire baisser le prix de vente des cartes partenaires s'ils peuvent se permettre de revenir à l'ancienne prise pour économiser là-dessus. Mais c'est difficile à estimer vraiment. Et puis s'il y a une différence, à mon avis, elle devrait pas être énorme. Mais surtout, l'autre info vraiment importante, qui reste à confirmer bien sûr, mais qui pourrait changer beaucoup de choses, c'est que les cartes qui utiliseraient cette prise 8 broches, donc l'ancienne version, auraient un TDP plus bas. C'est-à-dire qu'on estime que les versions de la 4070 qui auraient la fameuse prise 8 broches seraient à un TDP de 200 watts, quand la Founders Edition et les cartes qui auraient accès à la prise ATX 3 pourraient monter jusqu'à 225 watts, voire plus.
Oui, mais alors attends, ça veut dire qu'elles tourneraient moins vite, du coup?
C'est ce qu'on pourrait y comprendre, c'est-à-dire qu'elles vont consommer moins, mais du coup, elles devraient aussi avoir des fréquences et une puissance globale un peu moins élevée. Évidemment, ça restera à confirmer et à estimer au moment où les cartes seront sorties, mais ça voudrait dire que si vous achetez une 4070 ou même encore une carte encore en dessous avec l'ancienne prise ATX...
Non, mais là, c'est un merdier.
Un peu moins puissante que la version Founders.
Et là, c'est un merdier.
Un TDP un peu plus bas.
Ils font une sous-segmentation dans une gamme qui est déjà. C'est pas possible. Parce qu'à la limite, ce qu'ils devraient faire, c'est laisser la prise sur les modèles TI et ne pas la mettre sur les modèles bon père de famille, tu vois.
Ça pourrait être une idée pour aider les gens à s'y retrouver, mais là en fait la technique, ça va être à chaque fois que tu vas chercher une carte graphique,
il va falloir
bien regarder la fiche technique pour regarder au dos de la boîte pour vérifier qu'elle a bien la prise qui correspond avec
C'est 2023 les gars, putain, on veut plus faire ça. N'importe quoi. Putain, de la segmentation artificielle là, faites chier, oh là là.
Le move a une logique, hein, parce que l'idée de dire on va conserver cette prise-là pour les gens qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas changer d'alimentation maintenant, ça coûte vraiment, vraiment cher pour le coup une alim ATX 3. Le move, il a vraiment une logique, mais par contre, si elle porte précisément le même nom, effectivement, mais c'est un problème, si elle porte précisément le même nom que les autres, il va falloir vraiment faire gaffe, parce que sinon, tu vas te faire niquer. Et le problème, c'est que s'il lui change le nom en disant c'est une 4070, je ne sais pas, moi, s'il l'appelle ATX2, par exemple,
non, ils vont l'appeler Super.
Que c'est la version moins bien, et donc, elle ne va pas se vendre. Et donc,
non, mais ça va faire une... Le Super qu'ils avaient fait sur la gêne des 2000 et quelques, qu'ils n'ont pas fait du tout hein, sur la 3000. Enfin, en même temps, ils n'ont rien fait sur la 3000.
Non, il n'y en a pas eu, non. Ouais. C'était une exception des 2000.
C'était quoi la Super? Elle était sous la TI ou au-dessus de la TI?
Alors en fait, quand j'en avais discuté avec Nvidia à l'époque, avec Stéphane typiquement, il m'avait dit le nom TI, on va l'abandonner parce que maintenant on va les appeler Super, etc. Il y avait une logique. Tu remarqueras qu'il n'y a pas eu de 2070 TI, il n'y a pas eu de 2060 TI, elle s'appelait Super.
Ah oui, c'est vrai.
Et l'idée, c'était de remplacer cette appellation TI en disant bon, c'est obsolète, ça fait 10 ans qu'on l'utilise, on ne va plus s'en servir, et de remplacer ça par Super. Le problème, c'est que quand les 3000 sont arrivés, bah, il n'y a pas eu de super, et ils ont repris le nom TI, personne n'a compris vraiment, donc du coup, ce que c'était que c'est super. Mais c'est vrai qu'ils pourraient le réutiliser, ils l'ont dans le tiroir, ça peut faire le truc, ouais.
Bah, ils font des tests, hein. On sent que, on sent que chez Nvidia, ils essayent, ils tentent des trucs. Ok, donc, voilà. Ouais. Oui, vas-y, Penta, pardon.
Info, ils ont sorti un modèle 4000, là, à 70 watts de TDP, en version low profile. Donc, si vous cherchez un GPU version 4000, que vous pouvez mettre dans des tout petits PC ou des serveurs, typiquement, des serveurs qui sont...
Mais il est achetable ?
De quoi ?
Ça s'achète ? Enfin, c'est vendable ?
Oui, après, c'est vraiment typiquement pour les usages serveurs, tu vois. Okay. Mais sachez que, voilà, un truc à 70... En fait, ils avaient déjà fait ça aussi avec la 1050 ou je sais plus trop quoi. Ils ont toujours sorti des modèles vachement bas, en fait, que tu peux vraiment mettre dans des serveurs qui sont pas très hauts, typiquement dans des blades, dans des lames, et voilà. Mm.
Ils avaient même sorti, alors c'était pas Nvidia directement, c'était un constructeur chinois, je crois, qui avait sorti une 2080 Ti où t'achetais en fait uniquement la carte. Il n'y avait pas de système de refroidissement dessus, t'achetais juste la carte, donc ça coûtait en plus sensiblement moins cher. Et après, c'était à toi de foutre un système de refroidissement dessus que tu pouvais faire toi-même ou que t'allais acheter ailleurs.
Mais alors, comment ça marche quand ta carte elle crame après au niveau de la garantie?
Ah bah là non, bah si ta carte elle crame parce que tu l'as mal.
Mais non, mais imagine, t'achètes une carte comme ça et tu joues à la bêta de Diablo. Et boum.
là, je sais pas. Il faut tenter. On sait jamais. Mais...
Ah ouais. Non, très bizarre. Ok. Bon, bah de toute façon, on verra. On suivra et la sortie et le prix de vente. Et tiens, on va passer sur ma troisième news. Moi, on va rester dans le monde fabuleux des semi-conducteurs pour parler d'armes. ARM, ça dépend comment vous dites, ça dépend comment vous êtes. Vous savez, même les gens sont habitués maintenant à ce qu'on parle d'ARM. Hein, tu dis quoi, toi, Oni? ARM ou ARM?
ARM, ouais.
Ouais, ARM, hein, ouais. Et toi, Penta, ARM aussi?
ARM,
et voilà, je savais.
Fais un sondage.
Allez, ouais. Tiens, allez, hop. Ici, on peut faire des sondages même quand on n'a pas le badge. Attention. ARM,
c'est un acronyme, hein, donc pourquoi tu dirais ARM?
Ah.
Bah, il y a plein de trucs qui sont des acronymes où tu prononces...
Bah oui.
Bah, je sais pas.
ARM. ARM, voilà, c'est ça. ARM. A-E-R-M. ARM. ARM et pas ARM. ARM. Hop là. Vous avez 5 minutes pour voter, c'est parti. Donc, en fait, on reparle d'ARM. Parce que vous saviez que, vous rappelez, Nvidia devait les acheter, ils se sont fait coq-bloc par le législateur qui a décidé que c'était décidément pas de bon augure de laisser Nvidia avoir un genre de monopole sur les puces en général. Et du coup, donc ça c'était, je crois on en avait parlé hein, dans le Discate, mais c'était en février 2022. Du coup, bon, SoftBank, ils sont un peu à la rue, ils sont un peu aux abois, ils veulent de l'oseille, donc... 66 milliards, c'était le prix initial, un peu plus cher que Twitter, un genre de Twitter écart à peu près, un Twitter et demi. C'était le prix de vente, donc ça a capoté. Du coup, ARM, ils avaient un peu les boules, ils ont quand même récupéré 1,6 million parce que il y a quand même des clauses de
1,6 million ou 1 milliard.
1,6 milliard, pardon, 1,6 milliard.
Ils ont récupéré 1,6 million, c'est trop bas.
Non, ils ont récupéré 1,6 milliard.
Ah oui.
Mais ça suffit pas. Donc en fait, ce qu'ils veulent faire, SoftBank, c'est carrément foutre ARM en bourse. Pour avoir plus d'oseille. Mais, pour faire cela...
Comme ça, il y a une OPA, et boum, et comme ça, Nvidia va les racheter et niquer tout le monde.
Bon, je pense pas que ça se fera, parce que ça aussi, c'est quand même soumis à un contrôle du régulateur sur les marchés financiers. Donc, en tout cas, ils pourraient pas le faire comme ça. Mais en tout cas, le souci qu'ils ont, c'est que il faut embellir la mariée, tu vois. Donc, quand tu fais une introduction en bourse, il faut quand même que les gens ils aient envie de claquer des euros dans ton truc. Et alors, ils se sont dit, tiens, idée incroyable. Et si on changeait la façon de licencier les processeurs ARM? C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu payes une licence, tu fabriques toi-même, c'est ce que fait Qualcomm, c'est ce que fait Samsung, c'est ce que fait Apple. Alors Apple, c'est différent parce que c'est leur propre design, machin, etc. Alors que Qualcomm, ils sont plus près des designs standards et après, ils les pimpent un petit peu. Et là, les mecs, ils se sont dit, on va changer de technique, maintenant, on va faire en sorte que celui qui paye la licence, c'est à la fois le fondeur qui fabrique les chipsets, mais aussi les fabricants de téléphones qui prennent les chipsets pour les mettre dans leurs appareils. Et là, c'est pas la même limonade. Donc ça grogne un petit peu. Alors évidemment, donc on disait Apple et Samsung, eux, ils ont des deals bien spécifiques, parce qu'ils font pas, de la bête fabrication classique. Par contre, les MediaTek, Qualcomm et toute la clique, eux là, ils commencent à transpirer un peu du cucu. Si on rajoute à ça, le fait que en parallèle, les Chinois, ils sont en train de se dire que ils sont pas super chauds pour rester de toute façon sur cette techno, puisque c'est une tech occidentale et que ça pourrait servir de levier dans la guerre commerciale entre, je dis l'Occident dans sa globalité, hein, parce que on fait plus de chichi, entre l'Occident et la Chine.
Entre Taïwan, backé par les US et la Chine.
Voilà, donc entre le reste du monde et la Chine, et la Russie, du coup, miskin. Du coup, les Chinois, eux, se tournent vers la technologie, voilà, alternative, le risque, le risque 5. Risque V pour les gens qui sont pas dans le business. D'où le titre rigolo de Ars Technica qui dit Risky Business. Risky Business, bien sûr.
Rêve de vieux, hein.
Rêve, ouais, de très vieux. Rêve de très vieux. Bah, en même temps, on parle de semi-conducteur.
Tom Cruise, non,
oui, exactement.
Business, c'est ça,
avec Tom Cruise. Et quand il avait 8 ans, à peu près. Hein. Donc là, ce qui se dit, c'est que, bah, voilà, il parle d'un scénario de rêve. Alors là, c'est de la spéculation, hein, et de la projection, mais ils disent, bah, en fait, ça pourrait aider à adopter plus largement le risque 5, puisque les Chinois sont déjà en train de se positionner dessus, puisque risque 5, c'est full open. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de restrictions commerciales, géographiques ou autres. Donc voilà, ça veut dire que moi, ça me fait plaisir de voir que le monde des chipsets ARM et compagnie bouge, parce que j'aime bien voir ce qui se trame. Moi, je sais que le risque 5, c'était un truc plutôt cool sur le papier. J'ai pas vu l'adoption en masse, qui était, parce que ça fait 2 ou 3 ans qu'on en parle. Moi, je crois que j'avais fait un papier dessus il y a 2 ans.
Il y a eu un gap, hein, au niveau perf, justement. Et en fait, rappelle-toi, Daz, ce qu'on a, on en avait discuté déjà de risque.
Ouais.
Et qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit ce qui serait bien, c'est que l'Europe, en fait, foute des millions et développe son propre CPU à base de risque.
Un CPU souverain.
Un CPU souverain à base de risque, plutôt que de filer, là, je sais pas combien de dizaines de milliards à Intel pour fabriquer une usine en Allemagne et que nous, on se retrouve toujours comme des cons à dépendre des Américains, tu vois. Mais quand on est hyper intelligent en Europe, eh ben voilà, on développe pas notre processeur RISC et on file tout à Intel. Voilà, bien joué les gars, comme d'habitude.
Il faut dire que nos ingénieurs qui pourraient faire des CPU en Europe, ils se barrent aux États-Unis.
Ils bossent soit chez Intel, soit chez AMD, soit chez ARM aussi. Hein.
Faut d'abord commencer par là.
Donc, voilà.
Bon, on pourrait faire un...
Les Chinois sont les Chinois, mais au moins, ils prennent niveau souveraineté, ils prennent de bonnes décisions niveau techno, hein.
Ah bah oui, mais bon, du coup...
Ils ont leur propre GPU, et là, maintenant, ils passent sur RISC-V, tu vois. Et ils ont leur propre distribution Linux.
Et du coup, ils sont très souverains. Ils sont peut-être un peu trop souverains.
Ils peuvent te faire un système full cloud, full souverain, quoi. Et pour l'histoire des licences ARM qui switch, dans le milieu, on appelle ça faire une Oracle ou faire une VMware. Parce qu'Oracle, en fait, à début, avait licencié ses bases de données par CPU. Quand il a commencé à avoir les cartes mères bi-CPU, ils ont dit « Ah bah maintenant, les licences, c'est plus par serveur, c'est par nombre de CPU. » Et quand il y a eu des cœurs, tu sais, qui ont commencé à apparaître dans les CPU, ils ont dit « Ah bah maintenant, en fait, c'est plus par nombre de CPU, c'est par nombre de cœurs dans chacun des CPU, tu vois. » Donc, c'est comme ça qu'Oracle nous l'a mis profonde pendant des années. VMware a dit « Eh, c'est pas con chez Oracle, regarde. » Du coup, VMware a fait pareil, donc voilà. Donc, ce style d'enculage, on est habitué niveau IT. ARM a juste pris que voilà, hein, l'idée des bons copains de chez Oracle et de chez.
Bah, ils veulent de l'oseille, moi je comprends. Alors, on a 61% voilà, des gens qui disent ARM. Hein. Voilà, donc on a 61% des gens qui sont dans le faux. Moi, ça m'embête un peu parce que je pensais pas que ça serait aussi triste.
D'ailleurs, Bricanian, oui, ASML, en fait, t'as Joe Biden qui est en train de demander aux Hollandais que ASML n'exporte plus ses machines de lithographie en Chine pour essayer de niquer les Chinois pour éviter qu'ils arrivent à accéder aux 3 nanos. Donc, on va voir si les Hollandais vont craquer ou pas, sachant qu'une machine à litho à 3 nanos, c'est 150 millions de dollars. Voilà, pour info. Hein.
Donc, c'est pas cher.
Une machine, quoi.
Ouais, bah, par rapport à un Twitter. Moi, maintenant, l'équivalent...
Tu comptes en Twitter.
Je compte en Twitter. Bon,
c'est environ 3 Twitter, Twitter et demi.
Twitter à l'achat ou Twitter court actuel? Parce que ça fait déjà...
Ah bah oui, oui, oui. Bah tiens, justement, on va rester sur ce sujet-là. Avec toi, Oni... Putain, mais les transitions journalistiques, moi, c'est
incroyable.
C'est incroyable, hein, vraiment. Oni, tu nous parles de Twitter, justement. Qu'est-ce qu'il a fait, l'autre, encore, là?
Tout à fait. Alors, il s'est passé plein de choses en fait sur Twitter concernant la fameuse checkmark, le fameux Twitter Blue dont on avait pas mal parlé.
Oh oui. Ah oui.
Twitter a annoncé plusieurs changements à venir sur Twitter Blue, et c'est une info en mouvement parce qu'il y a eu des mises à jour encore aujourd'hui sur le sujet dont on va parler. Mais du coup, voilà, Twitter a annoncé la semaine dernière qu'à partir du 1er avril, tout ce qu'ils appellent legacy checkmark, c'est-à-dire tous les gens qui étaient vérifiés par Twitter parce que c'était des personnes notables ou des personnalités, des politiques, etc., vont perdre leur checkmark, ne seront plus considérés comme des personnes vérifiées. Et la seule manière pour eux de garder cette checkmark et de rester vérifiés sur le site, c'est de payer les fameux 8 dollars par mois. Donc c'est terminé d'être vérifié gratuitement maintenant sur Twitter, en tout cas à partir du 1er avril. Donc ça, c'est la première chose. On a pas mal de détails qui sont arrivés par la suite, notamment le fait que les entreprises, elles aussi, qui avaient jusqu'à maintenant une checkmark gratuitement, vont elles aussi devoir payer. Mais comme ce sont des entreprises, elles vont pas payer le même prix que le commun des mortels.
Eh oui,
visiblement, Twitter
ça pique
a prévu
un peu, hein.
de lancer pour eux une offre à 1000 dollars par mois. Pour garder la checkmark. Alors, la contrepartie, évidemment, pour les 992 dollars de plus que les autres, c'est que tu vas avoir ta checkmark dorée.
Dorée, oui, bah oui, ça change tout. Donc, ouais,
ouais. Ça coûte bien 992 dollars, excuse-moi.
Ah oui, c'est de l'or, bah oui.
Et voilà. Et du coup, Twitter aurait déjà commencé à contacter certaines entreprises pour les prévenir que, attention, c'est terminé, les checkmarks gratos, maintenant, il faut payer, et essayer de négocier avec les différentes entreprises pour les forcer à payer pour quelque chose qu'elles avaient gratuitement pendant 10 ans.
Mais surtout quelque chose qu'elles n'ont jamais demandé, c'est quand même incroyable. Oui. C'est-à-dire que le mec, il arrive, il te donne un truc, tu lui as jamais rien demandé, et après il vient te voir 10 ans plus tard, genre, au fait, le truc que je t'ai donné gratuitement, que tu m'avais même pas demandé, maintenant il va falloir que tu me payes. Dans quel univers ça fonctionne, ça,
Mais attends, ça, le pire, c'est que ça peut fonctionner, tu sais pourquoi ? Parce que, rappelle-toi du lancement au début de Twitter Blue, où n'importe qui pouvait payer 8 dollars pour avoir la fameuse checkmark, qui à l'époque était la même que tout le monde, ça avait marché, enfin, à l'époque, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a plein de gens qui ont dit, bah attends, je vais payer 8 dollars,
je vais me faire passer pour Nintendo.
Exactement, je vais me faire passer pour un groupe pharmaceutique, et je vais annoncer que l'insuline est gratuite, et je vais tanker leur cours en bourse. Et le pire, c'est que ça marchait. Comment ça marchait? Quand tu te faisais bannir, du coup, après avoir payé pour la checkmark, bah, tu pouvais faire annuler le paiement en disant, attendez, j'ai payé pour un mois de Twitter Blue et je suis banni du site, et du coup, tu te faisais rembourser les 8 dollars. C'était tout bénef. Et donc il y a peut-être cet argument-là qu'Elon Musk va pouvoir avancer en disant, alors attendez, si vous payez pas, il y a des gens qui risqueraient de se faire passer pour vous et de raconter des conneries sur vous.
Ah ouais, donc c'est quasiment du chantage. Là, il le dit avec un accent italien.
C'est l'extorsion. ce move-là,
ça
même la mafia, ils auraient honte de le tenter.
Ça serait dommage que quelqu'un incarne votre entreprise sur notre réseau. Ouais,
c'est
non,
un bon compte Twitter que vous avez là.
Ah, les techniques de gangster. Putain, incroyable.
Voilà, donc ça c'était la première partie, c'était les infos qu'on avait jusqu'à ce week-end.
Ouais.
Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, pour nous, Elon Musk a balancé un nouveau tweet qui a un peu foutu le feu au pouce. Je te l'ai mis dans le Notion si tu veux le remonter.
Oui, bien sûr, attends.
Et il y a donc Elon Musk qui a balancé un nouveau tweet dans la nuit de lundi à mardi en expliquant qu'à partir du 15 avril, uniquement les comptes vérifiés qui pourront apparaître dans la section pour vous. Donc évidemment, les comptes vérifiés, ça veut dire les comptes qui payent concrètement. Et surtout, ce seront les seuls comptes qui auront la possibilité de voter dans les sondages et peut-être même encore d'autres surprises dont on n'est pas encore au courant. Il a 2 semaines pour nous mettre des douilles supplémentaires.
Incroyable.
On verra bien ce qu'il va trouver. Mais il explique que c'est pour lui la seule manière de contrevenir à l'invasion de bots qui aurait actuellement.
Les bots avec Musk, c'est genre, est-ce que les bots sont dans la pièce avec nous, monsieur Musk, en ce moment, quoi. c'est son obsession, c'est un truc de fou.
Ouais.
Je veux dire, les bots avec Musk, c'est comme les immigrés pour le ministre de l'Intérieur.
C'est un truc de ouf, il envoie partout.
Il les voit partout, mais il explique dans le tweet suivant, en plus, si tu scrolles, c'est le tweet suivant, il explique que, cela dit, les bots qui ont un compte vérifié pourront continuer à fonctionner normalement tant qu'ils n'usurpent pas l'identité de quelqu'un ou qu'ils ne contreviennent pas aux conditions d'utilisation. Donc c'est évidemment comme d'habitude, c'est Elon Musk qui fixe les règles au fur et à mesure. C'est un peu le Denis Brogniart, tu sais, de Twitter, en disant attention, nouvelle règle, à partir de maintenant vous ne pouvez plus tweeter si vous n'avez pas payé 8 dollars par mois.
Non mais c'est deb.
Il y a pas aussi le fait que les Twitter Blue peuvent décider ou non après de retirer leur checkmark blue pour éviter de se faire rayer par les autres.
Oui, exactement. Visiblement, il a aussi ajouté une option pour les Twitter blue qui est pour leur permettre de retirer la checkmark. C'est-à-dire que tu vas pouvoir payer pour avoir la checkmark et la retirer pour pas qu'on se foute de ta gueule. Donc il a pensé à tout. Il a vraiment pensé à tout. C'est un génie. Hein,
mais non, mais là, c'est du contre 5 ans sur plusieurs plans dimensionnels. C'est incroyable. Parce que tout le monde
savoir au niveau des API hein, ce que ça va donner. Hein.
Bah de toute façon les API elles sont.
Tu vas perdre dans les API. Donc moi je tente de savoir ce que j'ai mon Pentarobot qui attend patiemment dans l'ombre.
Mais non mais pour les API ils ont dit que pour les chercheurs pour avoir accès à ce que les chercheurs faisaient avant c'était 142 000 $ ou un truc comme
oui,
ça.
Oui oui c'est 42 000 $. Il y a plusieurs offres mais je crois que ça démarre à 42 000 $ et en fait c'est l'API publique, ça c'est pas juste les chercheurs, c'est l'accès à l'API publique qui a toujours été gratuit, qui est généralement gratuit pour tout le monde. Là elle va être facturée à partir de je sais plus combien mais je crois que c'était 42 000 $.
Ouais mais
c'était effectivement
que c'était
pour sortir plusieurs milliers de tweets en même temps pour justement ça peut servir pour faire des recherches, ça peut servir pour cibler ta pub, ça peut servir pour plein de trucs. Il a décidé que ça ce serait payant, mais de toute manière il en train de rendre payant littéralement tout ce qui était gratuit jusqu'à maintenant sur le site. Là, la seule chose qui reste,
c'est de
créer un compte et de tweeter, quoi. Mais bon,
on peut résumer ça comme ça. Mais du coup, oui, parce qu'il y avait aussi l'histoire de mettre un cap aussi potentiel sur les comptes qui tweetent et qui sont pas, qui sont pas certifiés, machin, etc. Ouais. Après, il a dit non, c'était du test, aucun rapport, mais bon. S'il l'a fait une fois, il peut le refaire.
Il y a d'autres douilles cachées qui vont débarquer dans les semaines qui viennent. Moi, j'en suis convaincu, c'est pas terminé. Hein.
Ouais. Non, mais là, c'est turbo con parce que les gens n'arrêtent pas de se plaindre de cet onglet For You, donc pour vous chez nous, qui en fait prend des tweets. On sait pas trop comment, hein, en vrai.
Ouais, je sais pas comment ça fonctionne.
En fait, rappelez-vous que pendant 3 jours, dans ce truc-là, il y avait tous les tweets d'Elon Musk qui étaient poussés. Hein. Parce que c'était quand le mec a fait une crise, parce qu'en fait, il avait pas assez de bons ratios sur ses tweets, les réactions, les commentaires, les Twitter. Du coup, les mecs, les ingés de Twitter l'ont poussé sur tout le monde, en fait, chez tout le monde dans le For You. Hein.
Et donc, non, mais ce qui est bizarre, c'est que moi...
Sur abonnement, tu vois, comme ça, t'es tranquille.
Quoi. Moi, quand je suis dans For You, je vois quand même plein de gens que je suis, tu vois. Tous ces comptes-là, je les suis. C'est des retweets de gens que je suis. Donc des fois, de temps en temps, il y a un tweet que j'ai pas sollicité. Genre là, bah non, c'est du sponsor.
Mais dis-toi qu'à partir de la semaine prochaine, ces gens que tu suis, s'ils ont pas payé 8 $, tu les verras plus dans For You, justement.
Ouais, bah c'est pas grave. Du coup, je resterai sur abonnement.
Tu connais pas ou
ouais. Tu vois, c'est bizarre. Là, j'ai que des gens que je connais, alors que normalement, quand je vais dans For You, il y a plein de gens que je connais pas. Tu sais, des tweets qui, qui buzzent, des tweets qui, tu sais, qui te donnent envie de réagir et d'insulter tout le monde et tout. Enfin, Twitter, quoi. Voilà, par exemple, voilà. Là, tu vois, j'ai un tweet d'un mec qui poste une pochette d'album de Common. Je le suis pas, ce gars-là. Bon, moi, ça me fait plaisir. C'est de la musique que j'écoute, donc c'est cool, hein. Mais ouais, très shady un peu, hein, ce fonctionnement-là. Hein. C'est un peu opaque, hein.
D'ailleurs, Method Man était hier chez Jimmy Fallon, Daz.
Ah ouais ?
Ah ouais.
Et le Wu-Tang et Nas passent en France au mois de juin.
Oui. Oh voilà. Putain. Où ça ?
Bercy, je crois.
Bercy, ouais.
Ouais, okay. Bercy, ouais. Bercy. Elon Musk chez D, c'est nouveau. Bah ouais, non, c'est vrai, bah on s'y attend, mais c'est toujours bizarre quand... Parce que véritablement, en fait, il est sur un arc narratif de méchant de comic book, hein, concrètement.
Ah, mais là, c'est Lex Luthor. Hein,
ouais. C'est à mi-chemin entre Lex Luthor et le directeur de la fête foraine dans Scooby-Doo, tu vois. Mais franchement, non, mais il est incroyable. Il est vraiment incroyable. C'est-à-dire que je pense qu'il embrasse totalement sa persona de Evil Billionaire, tu vois. C'est bon. Ouais.
Mais oui, mais tu vois, il y a 10 ans, on le comparait plus à Tony Stark.
Oui.
C'était plutôt Tony Stark pour prendre un milliardaire de comic book, et maintenant, c'est plutôt
c'est
Lex
Luthor. C'est vrai, Tony Stark était quand même un gigantesque trou du cul, hein.
Ah, c'est un énorme connard, mais tu vois, il sauve le monde, sans spoiler,
oui,
tu vois.
Oui, c'est
mais
vrai.
Là,
oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on va rester sur Twitter avec toi, Pentaro, parce que t'avais un tweet par rapport à ta dernière news, là, qui concernait quoi ?
Ah oui, en fait, on était ceux qui voulaient se lancer dans l'aventure de la DDR5.
Ah oui.
Donc la RAM nouvelle génération.
Les aventuriers, les Trailblazers.
Parce qu'en fait, on était limité, je crois, 24 ou 32 gigas en fait, de DDR5 sur les cartes mères, ce qui était strictement pour moi inacceptable. Et en fait, enfin, et ça fait ironie, hein, mais bon, quand tu as des besoins gigantesques, et ben, des fois, il faut pouvoir les
assouvir. Quand tu fais du Java, quoi, mais sinon...
Ou que tu utilises Chrome aussi, tu sais. Voilà, c'est synonyme, en fait. Hein, et en fait, du coup, bah, voilà, y a donc Asus qui était en partenariat avec Intel et aussi avec AMD et Corsair. faire pour faire des tests et annoncer...
Que des marques qu'on aime bien ici, je me permets de le dire.
Ah bah oui, complètement, moi c'est méga sûr. Et donc bientôt, on va pouvoir enfin monter à 192 gigas de DDR5
sur les cartes
de mère Intel, donc chipset 600 et 700 et AMD AM5, donc cartes mère Asus qui ont été pour l'instant forcément les seules entre guillemets certifiées, vu que c'est les seuls à avoir créé ce partenariat re-quote, redouble quote. Et en fait, donc on va pouvoir mettre des barrettes de 24 ou de 48 gigas maintenant sur les cartes mères. Et alors, seule limitation, c'est qu'en fait, si tu n'as que 48 gigas de RAM, tu pourras avoir des barrettes à 7000 millions de transferts par seconde, donc les 7000 MTS. Et si tu montes à 192 gigas, tu pourras mettre que des 5600 MTS en barrettes de RAM. Mais voilà, donc au moins comme ça, si on veut tanker des grosses IA, on va
attends,
pouvoir...
Attends, ça veut dire que on continue avec les mongoleries qui sont liées à la RAM à chaque fois, avec les casses et des trucs comme ça, là, ils continuent à nous faire chier avec ça.
Ah bah oui, ça t'as
oh, mais putain, mais c'est 2023, les gars, moi je peux plus, là.
Maintenant, ils sont passés au MTS, donc au million de transferts par seconde, au lieu des fréquences, parce que du coup, en fonction du casse et tout, ça voulait strictement... Enfin, tout le monde s'y perdait. Alors que là, au moins maintenant, tu vois, c'est un peu comme les disques durs. Quand on dit, voilà, ça peut balancer tant de purée par seconde, et c'est beaucoup, enfin, selon vous, beaucoup plus clair et beaucoup plus simple.
Donc, et il y aura toujours. Oui, après, bon, ça sera la compatibilité, machin, etc.
Avec les chipsets, mais voilà. Mais en tout cas, maintenant, enfin, on peut monter à 192 Go de RAM, ce qui peut être fort utile pour certaines applications et certains développements.
Oui, bah, bien sûr, oui. Je pense qu'effectivement, le tout venant, voilà, le bon père de famille, la bonne mère de famille également.
Ça va pas t'apporter grand chose dans tes jeux, si c'est ce que tu veux
savoir. Oui, mais là, de toute façon, c'est pas pour les gamers. Là, je parle aux gens qui font de l'édition vidéo.
C'est pas pour les gamers, les gars. Moi, je regarde les barrettes de RAM, elles m'ont l'air chatoyantes, hein, quand même. C'est pas exactement bureaucratique, hein, comme design.
C'est-à-dire que s'il y a des pigeons qui sont prêts à acheter ça pour jouer à Call of, ils vont pas s'en priver, tu vois.
Ouais,
un peu comme Nvidia qui te dit que les cryptos, c'est de la merde, mais qui vont quand même te vendre les GPU pour les miner.
Oui,
c'est pareil. Mais
oui. Donc enfin, ils visent quand même une certaine, tu vois, les gens qui aiment un petit peu quand même les néons, quoi. Je veux dire, bon.
Alors, Uldorich, la mémoire ECC, malheureusement, pour la démacrotisation au niveau du grand public, c'est pas gagné.
Démacrotisation, c'est la démacronisation, même.
Malheureusement, la mémoire ECC. Alors, la mémoire ECC, très rapidement, c'est celle qui fait les calculs de cohérence en fait de données pour être sûr que ce que tu as dans ta mémoire est vraiment la bonne data en fait. Donc ECC, c'est du contrôle de parité et le souci que ça a en fait, c'est que quand tu démarres un serveur avec de la mémoire ECC, ça met genre 3 minutes à checker toute la RAM avant même que ça démarre, quoi. Donc niveau grand public, tu vois, maintenant qu'on te vend des PC qui sont censés booter en 4 secondes, si on dit alors là du coup ça va mettre 25 secondes parce que
c'est
de la mémoire,
c'est un peu une régression. Oui, c'est un peu une régression.
Ouais. Donc malheureusement, je pense que pour ça au niveau grand public, tout le monde s'en fout.
Et d'ailleurs, attendez, puisqu'on parle performance, puisqu'on parle grosse capacité de RAM, il serait peut-être intéressant de rendre hommage à Monsieur Moore, qui est décédé cette semaine.
Gordon Moore.
Gordon Moore, hein, qui avait énoncé la loi de Moore, qui était, si je ne me trompe pas, que les puissances de calcul doublaient tous les 18 mois.
Ça s'est délité au fur et à mesure des années.
C'est la version révisée.
Alors, c'est quoi l'officiel?
En fait, c'était le nombre de transistors doublait dans une puce tous les 2 ans.
Ah, voilà.
Alors, non, même au départ, c'était le nombre de transistors double tous les ans.
Ah.
Et quelques années plus tard, il a révisé en disant « Ok, donc ça sera plutôt tous les 2 ans. Ouais. »
Et donc, le 18 mois, il sort d'où, lui?
D'ailleurs, rappelle-toi, c'était avant qu'on descende vraiment en gravure, en fait, en finesse de gravure. Il avait dit « Bon, là, on va se calmer. » C'est à l'époque, on rajoutait des cœurs, tu sais, des cœurs et des cœurs. Puis ça chauffait tellement qu'il s'est dit « Bon, on va se calmer, ça va être tous les 2 ans. »
Alors, le 18 mois, il sort d'où, lui?
C'est parce que si tu comparais la réalité par rapport à ce qu'il avait prédit, c'était vrai si tu t'en tenais plus ou moins.
C'était 24 mois, doublement.
On considérait que la loi était vraie parce que la réalité collait suffisamment proche de ce qu'il avait dit.
D'accord. Ok.
Pour un mec qui a sorti ça quand même fin des années 60 ou début des années 70.
C'est ça,
le mec était quand même cofondateur d'Intel, faut le rappeler d'ailleurs.
Ah, Gordon Moore, cofondateur d'Intel, je savais même pas, tu vois. Ah d'accord, c'était vraiment un mec du sérail, quoi, je veux dire.
Il parlait pas
de rien, d'accord, la loi n'est pas sortie comme ça, il s'est pas réveillé un matin en disant « Tiens, j'ai une idée, ok ».
C'était pas okay. Nostradamus non plus, ouais.
Oui, alors ouais, ok, mais quand même. Ok, du coup, c'est la fin des news, on passe au dossier. Alors, comme d'hab, j'ai pas de jingle, mais bon, ça, voilà, vous le savez. Et on n'a pas non plus de dossier. Voilà, comme ça, oui. Vous savez. Si, on en a. Non, par contre, je crois que c'est Debrick Rose dans le chat qui m'avait dit « Daz, est-ce que tu pourrais conseiller des choses pour permettre aux gens qui se rendent en manifestation pour leur permettre de chiffrer leur téléphone éviter, s'ils se font interpeller par la police, que leur téléphone tombe en de mauvaises mains et qu'on se serve des données. » Alors, moi, mon conseil, hein, je le redis ici dans Disquette qui est une émission tech, si vous allez en manif, ne prenez pas votre smartphone. Achetez des burners de dealer de cam, là.
Mettez juste les numéros, ça a 10 balles.
Voilà, mettez juste les numéros des gens qui sont avec vous pendant la manif et des gens à contacter en cas de pépin, de soucis de santé, etc. Parce qu'il y a un risque non nul, hein, quand même, qu'à un moment donné, il y ait des motards qui vous roulent dessus. Mais en vrai, chiffrer son téléphone perso de tous les jours, mauvaise idée.
Deux choses. Un, c'est déjà le chiffrage, de toute façon, dans les téléphones sérieux Apple, il se fait de base. Donc, de toute façon, tu n'as pas besoin de le faire. Parce que tout ce qui est dedans est chiffré by design. Android, c'est plus ou moins sûr en fonction de la chinoiserie que vous avez. Mais surtout, c'est que. si vous vous dites, ouais, mais en fait, du coup, c'est sécurisé parce qu'il faut que je mette mon empreinte ou ma tronche. De toute façon, c'est dans le code pénal. En fait, c'est une infraction pénale si vous refusez.
Voilà, ça, c'est intéressant.
Votre téléphone, en fait, en cas de garde à vue. Donc, quoi qu'il
soit. Ça veut dire que quand les mecs te disent déverrouille ton téléphone, si tu dis non.
Bon, ils peuvent te charger encore plus. Donc, voilà. Allez, donc, il vaut mieux. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une saloperie. À la limite, je peux comprendre d'avoir un Android pas cher en manif pour prendre des vidéos, des photos, quoi que ce soit. Ça, donc, prenez un Android qui prend des photos, des vidéos, parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir.
Ouais, avec une puce prépayée.
Exactement. Ouais. Mais ne prenez pas votre smartphone principal, parce que quoi qu'il se passe. Au mieux, le mec, de toute façon, il vous le fait déverrouiller. Vous avez toute votre vie à leur dispo. Ils font ce qu'ils veulent. Et après, plus ou moins, ils vous le rendent ou pas en fonction des délais.
Et le double avantage, c'est que si on vous le pète ou qu'on vous le vole, vous en foutez.
Ouais. Exactement, quoi.
Donc, Wiko. Et voilà. Putain, Wiko. Wiko. Wiko, voilà. Si vous nous entendez, Wiko. Mais là, vous avez un boulevard.
Wiko, l'ami des comicos.
T'imagines, mais c'est ça, t'imagines, il faut lancer la campagne de pub, le téléphone spécial manif.
Le téléphone spécial manif.
Alors, il n'est pas chiffré, il n'est rien du tout, mais vous l'achetez uniquement pour pas utiliser votre iPhone.
Mais de ouf. Mais de ouf. Wiko, l'ami des comicos, t'as dit ?
Ouais, exactement. Wiko, l'ami des comicos.
Bon, on envoie la facture à Wiko maintenant.
Franchement, là, il y a. Putain, je vois déjà, tu sais, les pack shots avec des pavés, un cocktail Molotov derrière et tout. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Donc voilà, prenez des téléphones de merde et faites en sorte que dedans, il n'y ait rien qui puisse vous incriminer comme. Au hasard, des textos d'organisation, de regroupement, de « venez, on se retrouve à tel endroit, à telle heure, machin, etc. »
Vous installez Signal dessus. Sinon, astuce, vous installez Signal dessus avec effacement automatique du message au bout de seconde, et là, vous êtes safe.
Ouais. Bah, WhatsApp aussi fait ça, hein, de toute façon.
Non, mais pas WhatsApp.
Pas WhatsApp, effectivement.
Pas WhatsApp.
En fait, WhatsApp, c'est vraiment un truc, c'est qu'ils utilisent la techno de cryptage de chiffrement de Signal, tu vois, sauf qu'au-dessus, c'est un mec qui s'appelle Mark Zuckerberg qui se fait du pognon sur ses data.
Oui.
Le jour où le FBI appelle WhatsApp en leur disant on a besoin d'accéder à l'historique de conversation de telle personne, t'inquiète pas qu'il va les envoyer.
Oui, mais après, d'un autre côté, si t'as rien à cacher, virgule, bref.
Argumentaire de merde.
Non, c'est de la merde. Donc voilà, ça, c'était le petit point. Donc à la demande de Debrick, j'espère que voilà, on a bien répondu. Je vois qu'après, dans le chat, on nous dit qu'apparemment, Maître Eolas, on salue, en a parlé sur Twitter. Hein, c'est quand même l'avocat de Twitter, enfin l'avocat le plus connu de Twitter en France. Donc ça veut dire que quelque part, c'est un sujet qui... je sais pas pourquoi... C'est dans l'air, comme les lacrymos, c'est dans l'air, c'est... Voilà. Mais alors, Penta, quel était le vrai dossier de cet épisode de Discate ?
C'était une position de discussion que je voulais, en fait, en Bien disant sûr. Que les voitures avec des IA embarquées vont droit dans le mur. C'était mal.
Oh là là, mais putain, il est chaud.
Ouais,
il est chaud. D'abord, l'ami des comicos, et après ça... Incroyable. Donc on parle de quoi ? De la conduite autonome, hein ?
Exactement, parce qu'en fait, j'ai pu donc tester pas mal de véhicules électriques là récemment. Et Tesla inclus, parce qu'on me dit, ouais, mais t'as pas conduit Tesla. Bah, si, Tesla, j'ai testé aussi. Et les IA des Tesla sont aussi aux fraises que les IA qui sont dans une ID 3 Volkswagen ou n'importe quelle voiture avec un niveau autonome 2.
On rappelle les différents niveaux d'autonomie, peut-être ?
Bah, en fait, t'as le niveau. Je vais essayer de faire simple. En fait, t'as le niveau 1 qui est en gros, si la voiture freine devant toi, ta voiture freine. Voilà,
c'est niveau 1, c'est même pas niveau 2 ça.
Pour moi, c'est pas le niveau 2 ça. Hein. Et en plus, tu vois, il s'allie les panneaux et du coup, voilà, donc ça te permet de. Pour moi, c'est ça le niveau 1, tu vois. C'est-à-dire que la base.
La conduite, ça.
Voilà, c'est
non, ouais, la base de la conduite, c'est un régulateur de vitesse, tu vois, ou un limiteur.
Ça, c'est pas de l'IA, ça.
Ok.
Je te parle vraiment d'IA. Je te parle, tu vois, pour moi, le niveau 1 de l'IA, c'est de dire, il y a un truc qui freine, je freine, il y a un panneau, je lis le panneau.
Ok. Vois, et je garde ma voix.
Voilà. Ouais, ça, okay. C'est la base. Sauf que concrètement, même la base, en fait, elle est pas bonne. Parce que en fait, le problème qu'ont les fabricants de voitures, c'est qu'ils doivent vendre sur la planète entière et que malheureusement pour eux, les routes ne sont pas faites.
Eh oui, la DDE n'est pas universelle.
Elles sont pas entretenues pareil.
Exactement, la planète entière. Et si tu veux, je me faisais la réflexion, je me disais, vous vous rappelez à l'époque où on avait les GPS TomTom hein, qu'on mettait sur les pare-brises et tout avec les packs de cartes, tu sais, Europe ou France ou truc. Ben en fait, il faudrait faire exactement la même chose pour les IA. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment en fait avoir une IA genre, tu roules en Europe, tu as une IA opti Europe, tu vois, ou tu roules aux US, t'as une IA opti US, ou tu roules en Afrique, t'as une IA opti US. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe ? Les données qu'on utilise pour créer les IA, et ben en fait, elles sont forcément biaisées, soit de manière géographique, je pense notamment aux IA de reconnaissance de lecture de plaques, qui sont faites par les Chinois, donc entraînées principalement sur des plaques chinoises, sauf qu'en Europe, on n'a pas des plaques chinoises. Les
pas
routes
encore.
Américaines qui sont, comme tu le sais, font 50 km de large.
Oui.
À un moment donné, l'IA, c'est sûr que c'est facile de te faire conduire une voiture de 3 mètres de large dans une voie de 40 mètres de large, sauf qu'en France, t'as pas des routes qui sont forcément comme
c'est,
ça.
Alors ça, c'est exactement ce que j'avais dit à Lam dans un studio 404 où lui, il était persuadé qu'en 2025, toutes les voitures rouleraient toutes seules. Où moi, je lui avais dit, c'est pas la même chose de faire des tests en Arizona et de faire des tests à Florence ou à Naples. Tu vois, je pense que...
À Paris ou même en France.
Ou même à Paris. Non, mais tu vois, même Paris, tu te dis, bon, les routes, mais tu vas en Europe du Sud, ça commence à être bordélique.
Et en plus, le truc même, le
béaboli,
la place de l'étoile. Déjà, quand t'es un humain qui sait conduire, tu te plantes systématiquement.
C'est un rond-point tranquille.
Tu fermes les yeux et t'accélères. Et en fait, même la lecture de panneaux qui indique les vitesses, si tu veux, quelle que soit la voiture, j'avais testé l'Audi A7, la Tesla, donc des trucs très chers qui sont censés être smart, et ben même ça, c'est-à-dire que ton Audi A7, quand tu conduis sur l'autoroute et que tu as une sortie avec marqué 90, ben la voiture, elle freine. Parce qu'elle se dit, ah, panneau 90, putain, je freine, quoi. Donc, tu te retrouves de faire du 130, 90 ou 130, 110 d'un coup, sachant que derrière le mec derrière, il freine pas aussi vite que ton IA, ça peut générer des accidents, tu vois.
Ouais.
Même la base, en fait, on n'en est pas
en
encore
en plus,
là,
elle freine brutale, donc tu te prends
des jets
dans la
sévère,
gueule.
Hein. Elle freine sévère. Et là, l'ID3 que je suis en train de tester... Je me suis arrêté, en fait, j'ai ralenti parce qu'un piéton traversait.
Ouais.
Le piéton, il était littéralement à 3 mètres à gauche de la voiture. La voiture a pilé. Elle a pilé en mettant tout en rouge en mode « putain, Ariette est en train de tuer quelqu'un ». Quoi. La vieille était en train de traverser tranquillou à 3 mètres de moi, tu vois.
Ouais, mais pourquoi ? Parce que t'arrivais vite ou parce
pas,
qu'il l'a pris pour un grizzly ?
Même
c'est
pas,
quoi le...
Même pas, c'est juste que les mecs ont tellement la flip que leur IA tue des gens avec les voitures qu'ils sont hyper précautionneux, quoi.
Bah oui,
donc ils préfèrent faire bouffer le pare-brise et l'airbag, tu vois, que de cartonner un piéton qui est déjà à 3 mètres à ta gauche.
Ce qui est louable, hein, en vrai.
C'est louable, je suis content. Je suis content qu'elle dise, ouais, regarde, il y a un piéton. Ok, je l'ai vu depuis 3 mètres. Enfin, 30
non, mètres, en fait, c'est vrai que c'est plus pour la personne qui suit, effectivement, qui peut potentiellement être surprise.
Et puis même, pareil, c'est le tenue de ligne. La tenue de ligne, bah en fait, t'as souvent des travaux, donc t'as des lignes temporaires, tu sais,
ouais,
un peu effacées, d'autres lignes, tu sais, un peu marquées.
Ah, Hidalgo d'émission.
L'IA, elle pète un câble. Parce qu'elle se dit, à un moment donné, mais quelle ligne je suis ? Et si t'as une ligne qui commence à se rabattre, une ancienne ligne qui commence à se rabattre vers les arbres, et ben la voiture, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait tourner le volant pour aller vers les arbres. Parce que la ligne, il faut la suivre, tu vois. Alors quand il y a deux lignes, et ben elle sait pas laquelle suivre. Et là, tu te dis, mais à un moment donné...
Mais en fait, possible. Ça, excusez-moi, mais c'est... On aura beau mettre des IA de plus en plus sophistiquées, ce genre de truc, c'est indémerdable, en vrai.
Bah, en fait, c'est démerdable.
Parce que c'est de l'intuition, là, tu vois.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça sera démerdable le jour où on foutra des vrais trucs qui calculent en temps réel et qui peuvent s'adapter en temps réel.
Oui, mais ça ne marchera jamais. Parce que même moi, en voiture.
Ça ne marchera jamais.
Pareil, parce que je ne conduis pas, bien sûr. Mais même moi, en voiture, des fois, le soleil est un peu rasant, tu vois, donc ça éclaire la route. Ça illumine la route d'une certaine façon, et même les bandes qui ont été noircies, tu sais, qui regoudronnent parce que c'était les anciennes et qu'entre temps ils ont changé le truc, même ça, ça apparaît comme des vraies bandes blanches, tu vois. Donc tu te dis, même moi je suis là, je fais putain, quelle est la voie? Enfin, je dis ça à mon conducteur,
La seule vraie solution qui serait viable, mais c'est impossible parce que ça coûterait beaucoup trop cher et que ce serait logistiquement trop compliqué,
c'est refaire toutes les infras.
D'adapter réellement les routes.
Bah oui.
Voiture autonome, mais tu peux pas le faire.
Actuellement,
c'est la seule solution qui pourrait permettre d'avoir des voitures autonomes qui font pas trop de la merde.
L'autre solution, en fait, c'est d'avoir un réseau mesh de véhicules, en fait, où en fait les véhicules échangeraient en temps réel les données, tu vois,
pour faire une
moyenne de comportement, exactement. Et du coup, si tu as 400 voitures qui sont passées et qui ont été tout droit, alors que tu as une ligne qui fait ça, c'est que globalement, ta ligne qui fait ça, elle n'est pas bonne, tu vois.
Ou alors, tu as 400 gangsters, tu sais pas.
Ou alors...
En fait, c'est à partir de quelle masse critique, tu vois, tu prends le...
Non, mais tu vois l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, Nvidia avait commencé à développer ça, où en gros, la voiture reproduisait un nuage de points de son environnement en 3D, tu vois, foutait ça dans le cloud et en fait, pouvait repartager ça avec d'autres véhicules. Sauf que, qu'est-ce que ça nécessite ? Que ton IA, en fait, réapprenne constamment, se remette en jeu constamment, et réapprendre à une IA, ça prend du temps et ça prend du calcul. Donc, typiquement,
il faudrait
un data center dans ta voiture, quoi, tu vois.
Ça nécessite aussi un jeu de données suffisamment important, parce que le problème de ta solution, c'est qu'il faut que tout le monde, du coup, utilise la même bagnole, ou en tout cas, une bagnole qui utilise ce protocole.
Ouais, qui a un protocole standard.
Il faudrait que les fabricants se mettent d'accord, tu vois, et fassent vraiment une initiative conjointe, ce qui n'arrivera jamais.
Les fabricants qui se mettent d'accord, à part pour polluer, c'est difficile.
Regardez ce qui se passe avec la domotique. On a maintenant un truc à peu près standardisé, alors qu'au départ c'était un peu le Far West au niveau des normes. Là, je sais plus comment s'appelle cette norme.
Alors en fait, Rina Hachette dit c'est juste qu'elle respecte le code de la route. Bah, même pas, elle respecte pas le code de la route. Quand tu es sur la file de droite sur une autoroute, que tu roules à 110 ou à 130, tu respectes parfaitement le code de la route. Et que quand tu as une sortie avec un panneau 90 et que ta voiture pile d'un coup pour se mettre à 90,
Mateur,
alors que tu veux
merci.
Pas sortir. Que tu veux pas sortir en fait de la.
Mais normalement, route, normalement le panneau 90.
En danger les gens, quoi.
Normalement le panneau 90, il est derrière la ligne pointillée du
oui,
sas
sauf
de.
Que ton IA, ça, elle le détecte. Mais... Alors elle le comprend pas. Elle, ce qu'elle voit, c'est parce que les IA qu'on a développés, qu'on a mis dans les bagnoles, c'est des IA de cons. Le mec, c'est des feignasses. Ils ont dit, tu vois un truc rond avec un chiffre.
Des cancres.
Non mais les mecs ont pas bossé pour dire alors attention.
Et oui, il y a une flèche
90,
normalement, il y a
il faut
sur
aussi
le panneau.
Détecter que t'as peut-être une bifurcation avec un truc qui descend.
Mais non, mais normalement t'as un petit panneau flèche qui dit 90, oui, mais... tu vois.
Et en plus en termes d'équipement, si t'as... c'est comme une chose aussi toute bête quand t'as une route qui monte comme ça, tu vois, que genre en sortie de tunnel, tu sais quand tu montes pour sortir du tunnel, en fait, qu'est-ce que fait la voiture? J'ai encore testé là avec une voiture il y a pas très longtemps. Eh ben, je sors de mon autoroute à 110, je ralentis, et eh ben la voiture, qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah, elle détecte pas de voiture devant, elle accélère pleine balle jusqu'à 110. Alors que tu es en train de sortir de l'autoroute et que tu as ralenti, la voiture fait ah putain, pas de voiture, c'est bon, je pourrais accélérer. Et comme tu es en pente et que le truc il voit, le capteur il voit pas qu'il y a peut-être une voiture sur le plat 20 mètres plus tard, eh ben elle accélère comme une connasse.
Ah, j'aime beaucoup.
Il y a aussi le fait, ça arrive beaucoup sur l'autoroute en France, que tu aies des panneaux qui soient conditionnés à d'autres trucs qui sont pas forcément écrits sur le panneau. Typiquement, la vitesse à 110 quand il pleut, tu peux rouler à 130, mais quand il pleut, tu es limité à 110. Et tu as beaucoup de panneaux qui disent c'est 110 s'il pleut.
Ouais.
Mais j'imagine que l'IA, elle dit pas le panneau qui dit en bas c'est seulement 110.
Et non, et c'est le problème de la signalétique, parce que quand on est aux États-Unis, effectivement, eux, en fait, le code de la route, il y a 4 panneaux à prendre. Pourquoi ? Parce que, en fait, après chaque panneau, ils te mettent un paragraphe de texte qui explique, qui explique le panneau dans le contexte actuel. Tu vois, genre, tourne pas à droite, sauf les mardis, des semaines paires, et s'il y a jour de marché, les mercredis, mais attention, de 12h à 23h. Et tout ça, c'est écrit, tu vois. Donc, en fait, tu passes ton temps à lire les panneaux, mais littéralement à lire du texte sur des panneaux quand t'es là-bas.
C'est pas méga dangereux de passer ton temps à lire pour
savoir... Mais c'est giga con. Mais c'est pour ça que les Américains, mais en voiture, ils sont catastrophiques, les pauvres. Déjà parce qu'il y a que des lignes droites. Donc, dès qu'il y a un virage un peu chelou, ils comprennent pas. De toute façon, il suffit de voir la vidéo qu'avait tourné du rond-point qu'ils avaient mis au Kentucky, là. Ils, ah avaient, oui, fait, ils avaient fait une vidéo aérienne où les gens le prenaient dans tous les sens et tout. Enfin, voilà, c'est... En fait, prendre comme base conducteur l'Amérique, c'est déjà dès le départ, pour moi, c'était baisé, tu vois. On prend pas les bons.
C'est baisé et biaisé, quoi.
Maintenant, oui. tu prends leur IA et tu la mets à New Delhi. Et tu regardes ce qui se passe.
Non, mais c'est pour ça. En fait, moi, je saluais quand même l'envie d'y croire de l'âme, tu vois. Quand il disait ça, mais en fait, il faut se rappeler que l'âme, quand il parlait de ça, l'âme, il conduit pas. Donc, effectivement, théoriquement, sur le papier, bah, évidemment que c'est faisable. Bien sûr, c'est pas dur d'apprendre tous les codes de la route du monde entier et de foutre ça dans une machine qui va les processer. Oui, d'accord. Maintenant, il y a la vraie vie avec les vraies routes, avec des vrais cas de figure complètement cons. Genre, la vidéo d'une Tesla qui suivait un camion qui transportait des feux rouges. Ouais. Déjà de base, bah, tu vois, mais ça arrive une fois sur 3 milliards, tu vois, mais ça arrive en fait, tu vois. Et donc, tu voyais sur le tableau de bord les feux rouges qui n'arrêtaient pas d'apparaître et de disparaître et de réapparaître.
Les voitures en ville, regarde, moi, notre service, le service voirie de la mairie de Drancy, quand on transporte les panneaux stop ou les panneaux pour les installer,
bah oui,
bah forcément, t'as des camions avec les panneaux, du coup, la voiture elle va voir stop, elle va
tuer,
elle freine, et puis elle va faire 10 mètres, et puis elle va avoir le panneau, elle va refreiner.
Ouais, non, enfin, c'est deb.
C'est un problème avec les Tesla notamment, c'est que t'as des gens aux États-Unis, hein, comme par hasard, qui les activent et puis qui font la sieste au volant, tu vois.
Oui, mais parce qu'ils y croient.
Ces mecs-là se réveillent, leur voiture, elle s'est encastrée dans un camion, personnes sont mortes.
Bien sûr, bien sûr. En fait, la Tesla, le seul moment où elle a pas tué les gens, c'était quand le gars il voulait vraiment se suicider. Donc déjà, ça aussi, c'est quelque chose de, tu vois, ouais. Le mec qui a sauté d'une falaise là, le résultat, il est pas mort, tu vois. Du coup, il est inculpé pour meurtre, parce qu'il y avait toute sa famille avec lui, et il voulait emmener tout le monde dans le Valhalla. Et voilà, donc quand tu veux pas mourir, tu clames, c'est quand tu veux te suicider, la voiture te sauve. Donc moi, c'est bon, achetez pas ça. Hein. Mais en fait, en vrai, n'achetez rien. En vrai, le vrai truc qu'il faudrait faire, et qui fonctionnerait, ça serait, de mon point de vue, déjà, ça serait pas en milieu urbain, ça serait autoroute uniquement, pour la conduite full autonome. Il faudrait faire des tronçons d'autoroute avec tout ce qu'il faut pour que toutes les IA de tous les constructeurs puissent s'y retrouver en termes de signalétique et d'infra. Et par contre, sur ces autoroutes-là, c'est free for all au niveau de la vitesse. Et si tu veux rouler à 400 km/h, t'as le droit. Tu vois. Mais par contre, en ville, c'est impossible en fait. Arrêter de vouloir absolument faire en sorte que les voitures se conduisent toutes seules, c'est complètement con. Ça ne marchera pas. Je veux dire, rien que l'intersection en bas de chez moi, même moi, je la vois depuis mon 4e étage, je la comprends pas. Je ne la comprends pas, cette intersection. Et les routes sont pas droites, les gens se croisent n'importe comment, c'est n'importe quoi. Donc, de toute façon, ou alors il faut standardiser toutes les intersections de toutes les rues, de toute la planète.
Dire refaire toutes les routes de la planète, c'est impossible.
Et je vais vous donner un exemple de pourquoi il faut pas une seule illustration de pourquoi il faut pas faire confiance aux IA des constructeurs. Luc Julia, qui a développé Siri pour la performance.
Oh, lui il crache dans la soupe. Hein.
Et ben lui, non mais.
Ah lui il crache bien.
En fait, c'est devenu maintenant le lead en fait de l'IA chez Renault, quoi.
Ah ouais.
Donc si tu veux, donc moi jamais je fais confiance à un mec qui a développé Siri pour laisser la voiture Renault conduire tout seul.
Mais n'importe quel enfoiré.
Je dis rien.
Mais non, mais n'importe quoi.
Mais même pas en rêve.
Mais n'importe quoi, Siri, ça marche bien. Il faut juste le répéter souvent.
Ouais, si tu veux rien lui demander, c'est parfait, quoi.
Ah oui, mais qu'est-ce que tu demandes à une IA en vrai?
Qu'est-ce que je demande?
C'est vrai que j'ai jamais rien demandé à.
Je demanderai, j'ai rien à demander à un assistant personnel.
Un cas concret, quand je commence à m'endormir et que j'ai plein d'idées. Je dis à Siri, tiens, demain, rappelle-moi ça, rappelle-moi ça. Et à chaque fois, elle me tronque mes phrases, mais genre en 40 morceaux, elle comprend rien du tout, tu vois.
Alors, non, mais parce que je crois que...
C'est parce que t'es en train de t'endormir, t'articules plus.
Ah oui, déjà, t'articules pas. Tout à l'heure, t'as parlé de déchromatisation, alors que on parlait de démocratisation. Je veux dire.
Démocratisation,
ouais. Bah oui, mais t'es dyslexique aussi, c'est pas facile. Tu vois, c'est pour... Mets-toi à leur place, ces IA qui comprennent.
J'ai fait des maths, pas du français, hein, j'ai pas pu prendre les deux SP, hein, tu vois, donc je fais ce que je peux expliquer.
Non, mais c'est vrai que les IA sont assez limitées quand tu fais des queries qui sont liées soit à la query précédente, soit qui s'enchaînent.
Bah, et d'où le problème en fait des LLM, c'est-à-dire qu'en fait il faut une IA. C'est pour ça que ChatGPT est une vraie révolution, c'est-à-dire que le jour où on va pouvoir intégrer en fait ChatGPT en natif dans un téléphone comme ils l'ont fait avec Siri ou Amazon, Alexa ou genre de choses, là t'auras un vrai truc. C'est juste qu'en attendant il faut optimiser le bestiau, lui faire perdre un peu de poids en termes de paramètres et que ça tienne. Parce que si à un moment donné si tu fais une requête à ChatGPT qui est dans ton iPhone et que ça te prend 40% de batterie parce que le truc a tellement tourné pour te répondre que ça te flingue ta batterie, c'est
oui,
pas
c'est
bien.
Vrai.
Donc, c'est vrai. Pour ça que Siri et les autres sont totalement cons, mais d'un côté, ça arrange bien les vendeurs de smartphones, parce qu'ils peuvent mettre Bixby, hein, le pire, hein, parce que ça peut tourner en local, parce que ça peut tourner en local sans connexion Internet, tu vois, et que ça répond
Bixby,
à peu près à quelques petits trucs,
Bixby,
tu vois,
c'est
mais
compliqué,
c'est ça le souci. Donc, ChatGPT, ça peut être une putain de révolution. Si Apple se sort les doigts du cul, commence à bosser sur un modèle LLM sérieux, ils peuvent vraiment demander de l'aide à Microsoft, surtout, et ben ils peuvent le faire. Mais en attendant...
Je sais pas si ils ont amélioré les trucs, genre, tu sais, quand tu fais des queries linkées, genre, combien de temps pour aller en voiture à tel endroit, et le truc te répond, et après tu dis, et il fait quelle météo, et le truc comprend que tu parles de l'endroit que t'as query juste avant.
Ouais, ben ça, c'est récent, et c'est ultra limité, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire que là, on parle d'une query peut-être de, allez, peut-être 300, 400 tokens, tu vois, et t'enchaînes deux queries de 200, 300 tokens. Là où ChatGPT peut t'en sortir de 4000 tokens, tu vois, et peut les enchaîner comme ça pendant je sais pas combien de fois. 10 ou 20 fois.
Bah oui, mais à 0,03 centimes par token.
Et ben, c'est bien pour ça que je te dis qu'il faut qu'ils arrivent à faire un modèle déconnecté qui puisse tourner en local sur ton téléphone. Et là, tu pourras vraiment avoir un vrai truc qui peut te servir.
Bah oui, mais la puissance, moi, on m'a toujours dit que la puissance de l'IA, elle dépendait de son dataset. Alors, si tu la mets déconnectée.
C'est pas la puissance de l'IA qui dépend de son dataset, c'est la pertinence de l'IA.
Oui, la pertinence.
Qui dépend de son dataset. La puissance de l'IA, c'est sur quoi ça tourne. Mais par contre, tu peux faire maigrir une IA en lui faisant. C'est ce qu'on
appelle.
Les
jaloux vont maigrir.
De quoi?
Non, rien.
En fait, quand tu as une IA avec des milliards et des milliards de paramètres comme ChatGPT, en fait, tu peux la faire maigrir un peu, lui faire perdre un peu de paramètres sans trop perdre en performance. Donc, tu peux dire, par exemple, bah tiens, si je lui fais perdre 40 millions de paramètres et que je perds 0,001% de performance ou de pertinence, de confiance, bah, tu te dis, ok, c'est worth it, on y va, quoi. Tu vois, mais par contre, c'est du taf. C'est vraiment du taf. Et une fois que tu as fait ça, ce qu'on appelle le pruning, tu vois, de le faire maigrir, après, tu as la quantisation. Où là, tu lui dis, ben mec, tu bossais avec des flots de 16, ben maintenant, tu vas bosser avec des Intuit. Tu vas perdre encore un petit peu en performance, par contre, tu vas gagner en vitesse et tu vas être beaucoup plus légère. Donc, c'est ça, en fait, le boulot qu'il y a à faire pour transposer un ChatGPT dans un smartphone, c'est faire du pruning.
Mais Penta, pourquoi tu es à Drancy? Pourquoi t'es pas justement chez OpenAI pour parler de tout ça avec des gens où vous montez des...
Parce qu'il vire à 10 000 personnes tous les 5 ans et je suis pas fou, je suis bien fonctionnaire. Moi.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais là, ils ont le vent dans le dos. Je pense que là, si tu rentres dans un truc en disant que tu bosses sur l'IA, vu que c'est le nouveau métaverse, je pense que t'es au moins tranquille.
Non, c'est le prompt GPT qui est le nouvel IA, c'est plus l'IA.
Oui,
l'IA,
c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais je veux dire, tu vas pas te faire virer tout de suite, tu vois. C'est pas, il y a un peu d'avenir.
Je suis bien aussi, moi, avec mes IA qui prennent des poubelles pour des coquères et tout ça. Donc, moi, je suis très bien à faire ce que je fais, tu vois.
Drancy, c'est la Silicon Valley de la Seine-Saint-Denis. Figurez-vous, j'ai vu un reportage au journal qui disait que Nairobi, la capitale du Kenya, était un vivier de ouf au niveau de la tech et des jeunes ingénieurs, etc. Et ils appellent ça la Silicon Savannah. Voilà.
Ouais,
la Silicon Savannah. Ouais. Let's go, c'est super, j'adore. Bravo.
D'ailleurs, Daz, là, le dernier IA sur lequel je suis en train de bosser, je suis en train d'essayer de détecter les chiens de catégorie 1 et 2 qui squattent les city parks. Donc voilà, pour éviter que les petits-enfants se fassent charger par des pitbulls ou des molosses. Et voilà, tu vois.
Donc, mais tous les pitbulls, en plus, comment tu fais? Tous les pitbulls, ils n'ont pas la même taille.
Là, je suis en train d'entraîner une IA qui va reconnaître la race pitbull, la race, je sais plus, des 3, 4, 5, 6 chiens là, qui sont des American Staff et compagnie. Et comme
les molosses, quoi, les molosses.
Voilà, exactement, tu vois. Après, les chiens qui sont parfaitement tranquilles et adorables quand on les dresse correctement, mais comme en général, ces gens-là sont des connards et les dressent pour des combats ou autres, et ben voilà.
Bon, déjà, de base, s'il y a un chien sur un city stade, j'envoie la Bravem, tu vois. Moi, si j'étais à la mairie de Drancy, je veux dire, à quel moment ça va être un chien gentil sur un city stade, tu vois? On sait ce qui se passe au city. Donc, s'il y a un chien là-bas, c'est que c'est la merde. Ça dit quoi? N'importe quoi. Personne n'utilise le mot savane en Afrique. Eh oui, ben moi aussi, j'ai été surpris. Mais Silicon Savannah, les gars, c'est le terme, comme Silicon Valley, Silicon Sentier, Silicon Poulailler ici, parce qu'on travaille à côté du poulailler à Maison Alfort. Voilà, c'est écrit. Hein. C'est écrit. Voilà. Ok, donc en gros, s'il fallait faire une petite projection, déjà, est-ce que pour vous, un jour, on arrivera au véhicule full autonome tel que j'ai pu le voir, par exemple, dans iRobot avec Will Smith, que j'ai vu hier, qui a vieilli moyen. Mais il y avait déjà des idées de trucs intelligence artificielle. Est-ce que pour vous, c'est réaliste de se dire que oui, un jour, on aura des voitures qui se conduiront vraiment toutes seules, oui ou non ? Déjà, ça.
Non. Moi non. Moi non, moi je pense que la seule vraie solution qui pourrait permettre d'avoir des voitures qui roulent sur une route sans qu'on les touche et sans qu'elles se rentrent dedans, c'est d'adapter les routes pour qu'elles communiquent avec la bagnole pour lui dire là c'est barré, là tu tournes à gauche, là il y a un feu. Là,
non, mais ça voudrait dire que même la route elle est mise à jour.
Ouais, mais ça, ouais. ce serait faisable si on avait les moyens et l'envie de retaper littéralement toutes les routes du monde pour les connecter. On le fera pas, mais c'est pour moi la seule solution qui permettrait de manière sûre d'avoir des voitures autonomes qui risquent pas de tuer quelqu'un. Quoi.
Ouais, donc c'est adapter l'environnement ouais. aux nouveaux besoins. Et toi, Penta, pour toi, oui ou non?
En fait, on avait eu un espoir.
Tu sais quoi, je vais faire un poll.
Les marketeurs avaient dit que la 5G justement était la voie pour les voitures autonomes parce que grâce à la super faible latence de la 5G,
oui,
les voitures pourraient
sûr.
Communiquer, tu sais, même communiquer entre les scooters, les motos, les vélos, etc. Et que la voiture telle Van Damme serait aware de son environnement en temps réel, tu vois. Sauf que finalement, la fameuse 5G avec la faible latence qui existe que aux US et qu'à Chicago et à New York sur trois pâtés de maison, bah, elle n'est pas dans le monde entier. Donc forcément, bah ça, c'est mort. Et puis la 5G, imagine un jour, tu comptes là-dessus, puis tu traverses la Somme ou l'Oise, et puis tu n'es même pas en 3G, tu n'as plus rien, ta voiture, elle fait quoi, elle devient quoi, enfin, tu vois, c'est... Donc ouais. Techniquement, on a tout ce qu'il faut techniquement pour le faire. C'est juste qu'il faut que les consortiums de fabricants se mettent d'accord. Il faut que, limite, on fasse une taxe sur les ventes de voitures pour rénover les routes. C'est comme ça, Oni, t'aurais un fonds. Un
le fond retour de la vignette.
Ouais. Voilà quoi, tu vois. Donc,
on va dire à Vinci donc, qu'il faut retaper les routes pour les connecter à Internet. Ouais.
Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. En plus, avec le réseau LoRaWAN, tu peux foutre des capteurs, tu vois, qui consomment que dalle, qui tiennent des années et qui envoient des signaux. Mais il faut que les gens se mettent d'accord, quoi.
Ah, il y a beaucoup d'amis du train hein, dans le chat hein, qui dit oui, des voitures qui roulent toutes seules et qui se suivent de près et qui roulent vite, ça s'appelle le TGV. Oui. Hey,
mais le TGV, il a un conducteur et il a tout un équipage qui le fait fonctionner. C'est
oui.
pas du tout autonome.
C'est pas du tout autonome. Et en plus, d'ailleurs, le jour où votre TGV, on vous dit qu'il n'y a plus personne au volant, accrochez-vous, hein, parce que ça veut dire que ça va mal finir. Ce train roule tout seul. Non, et puis surtout, bah oui, le TGV, moi j'aime beaucoup hein, le transport ferroviaire, mais c'est vrai que ça va pas te chercher en bas de chez toi et ça t'amène pas à la porte de là où tu veux aller. Donc, bon, ceci étant, je suis complètement d'accord pour dire que l'initiative de Musk de faire rouler des Tesla dans un tunnel, c'est full con, hein. on est d'accord là-dessus. Hein.
Oui, non, mais bah ça, oui.
Oui, oui.
Ça fait combien de temps qu'il a pas eu une bonne idée en même temps, Elon Musk, en vrai?
Sachant qu'en plus, il met quand même des chauffeurs pour conduire leur Tesla dans le tunnel. Hein. C'est-à-dire que les
oui,
Tesla
en plus.
Sont censés conduire toutes seules et même oui. pas en fait. Hein.
Non, non mais à la base, remember, enfin, hein, le tunnel, il était supposé être dépressurisé,
Non, c'est un tunnel de base, juste il est RGB.
Il est même pas large en plus. Hein.
Non.
Genre les voitures peuvent pas se croiser. Tu es obligé de faire une boucle.
Bah, il faut pas être claustro parce qu'effectivement, tu rases les bords hein, quand t'es dans la bagnole. Ouais.
J'adore. Quelles idées de merde. Après, franchement, à sa décharge, faire le mafieux et aller extorquer 1000 balles par mois aux entreprises pour qu'elles gardent un macaron qu'elles avaient jamais demandé, c'est quand même une bête d'idée. Je suis désolé,
ça, ouais.
mais faut reconnaître qu'en termes d'entrepreneuriat, c'est une idée de squal. Alors nous, ça nous fait chier, mais bon, en vrai, ça se tient dans un business
plan. Alors pour le coup, il est fort
plan.
Pour gagner de l'argent, ça c'est clair. Mais
Ah oui, et pour en perdre aussi, parce que du coup, effectivement, on est à 20 milliards sur les 44 qu'il avait achetés. J'attends de voir à partir de quand il va se désengager.
J'attends qu'il revende et qu'un Microsoft ou un Apple se dise tiens, on va racheter Twitter et pouf.
Je sais pas qui va vouloir racheter Twitter,
non.
Mais il va le laisser en fait, c'est ça le problème.
Non, bah, en fait.
Microsoft, hein, franchement, tu sais, ils ont LinkedIn, ils ont le réseau social pro avec un Twitter. Ils
non, mais pas racheter. Pas racheter. Ils vont créer autre chose. Moi, j'attends le truc de Jack Dorsey qui était l'ancien CEO de Twitter là. Il a,
ouais,
il travaille
ouais,
sur un.
Il
sur
a pas viré CryptoBro lui, Jack
si,
Dorsey.
Si.
Ah, ouais, bah ils sont tous
CryptoBro
plus...
et même ce qu'ils voulaient faire finalement le réseau social, on l'attend toujours. Hein.
Ils voulaient faire un truc sur la blockchain en plus.
Ouais,
non.
Ça, ouais, ouais. Si.
Ah si si. Jack Dorsey, c'est plus une valeur sûre.
Ah non, c'est CryptoBro à fond lui.
Ah quel enfer. Oui, c'était Blue Sky, voilà. Ça devait s'appeler Blue Sky. Ah, c'était sur la blockchain, putain. Mais pourquoi? Pourquoi rajouter des idées de merde à des trucs qui sont même pas existants? C'est quand même fou ça. Alors attention, on est à quoi? On est à 59%, donc 62% des gens disent « never ». On a quand même 33% de personnes qui disent « oui, dans 30 ans ». Why not? Moi, je vous dis, 30 ans, ça arrive vite. Ça arrive très très vite.
30 ans, c'est éventuellement le temps qu'il faut pour retaper les routes en Europe, déjà, ou aux USA, pour qu'elles communiquent avec
nous. Oui, mais ça sera sûr. En vrai, 30 ans, je pense que ça pourrait être sur les grands axes, genre les autoroutes, tu vois.
Oui, parce que l'autre problème, c'est que quand on parle de retaper les routes, alors j'avais donné l'exemple de Liu Deni ou des routes qu'il n'y en a pas, hein, c'est littéralement tu roules sur de la terre, donc déjà là, il faudra en faire. Mais même en France, si à Paris, à la limite, tu peux t'arranger pour avoir un truc, mais si tu vas en race campagne, va dire au maire de la ville qui n'a déjà pas de budget, ou au maire du village de 400 habitants qui n'a déjà pas de budget, que la route principale et toutes les routes qui vont chez les gens, la route qui dessert une seule personne, il faut foutre des capteurs dedans qui vont lui coûter X millions d'euros pour...
Ça marchera avec des subventions, des aides, des incitations de l'État,
ouais,
de
mais
l'Europe...
Mais alors à ce moment-là, est-ce que tu veux que les routes soient financées par des entreprises privées?
Parce
que ça a donné avec Vinci pour les autoroutes.
Bah oui, hein, c'est ça, c'est déjà le cas.
Bah oui, mais du coup, tu payes toujours alors que c'était censé. Le paiement du péage de l'autoroute, c'était censé financer la fabrication de la route. Ouais. Sauf que elle est finie depuis longtemps, la route. Hein. Tu payes toujours quand.
Ah bah oui, mais ça, c'est la technique. ils ont pas remarqué que j'étais encore là. Peut-être que si je dis rien, ils continueront à payer. Bon, bah.
Peut-être que si je bouge pas, ils me remarqueront pas.
Ouais. C'est ça. C'était la technique que j'utilisais quand j'étais petit pour pas aller à l'église le dimanche matin. Voilà. Je priais sur le fait que mes parents oublient que j'existe si je faisais pas de bruit entre 7h et 9h55. À partir de 9h55, on savait que c'était trop tard et que tu allais plus, tu vois. Donc là, je recommençais à respirer, mais sinon, j'attendais en embuscade. Un entraînement de ninja, hein. Ça a pas trop marché, voilà. C'était compliqué. Bah écoutez, on arrive au terme de cette émission. Ah, t'as un test, du coup? Tu veux en parler ou tu l'as déjà évoqué?
Non, c'était l'idée 3, c'était justement.
Ouais. Mais pourquoi tu testes ça? C'est du vrai test ou tu te fais plaisir?
C'est du vrai test. Bah, en fait, l'idée 3, je kiffe. Hein, la Volkswagen, la future remplaçante de la Golf, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
Rien en voiture,
la Golf électrique, quoi.
Je teste plusieurs véhicules électriques parce que j'ai un projet de véhicule embarqué avec des IA dedans pour la ville de Drancy.
Oh là!
Ah ouais,
on s'inquiète.
C'est pour ça en fait, il faut que. Hein.
Mais il y a déjà les petits autobus de 15 personnes là qui renversent des gens à la Défense.
Ah non, mais moi c'est pas ça que je veux faire. Moi c'est avoir une IA embarquée via des caméras de vidéoprotection embarquées dans le véhicule connectée en 5G qui va détecter plusieurs choses en fait.
Donc ça serait quoi un genre de. En fait, c'est de la vidéosurveillance mobile, c'est ça?
Alors nous on vidéo surveille pas, on protège les gens, donc on vidéo protège à Drancy. Déjà.
Voilà, c'est 1984, putain.
En vidéo protège. Et un des projets que j'ai, moi, c'est pour, par exemple détecter les véhicules ventouses.
Ah ouais.
Putain de plaie. Donc ouais. Voilà. Donc
mais ça, tu peux pas le faire avec les caméras installées déjà sur les poteaux.
On n'est pas Moscou ou Dubaï, on n'a pas 40 000 caméras dans la ville, hein, on en a que 200.
Ouais.
Donc il y a des. C'est, en plus, les véhicules ventouses sont principalement dans les quartiers pavillonnaires.
Ouais.
Tu vois, les mecs vont pas se garer devant l'avenue commerçante pour laisser leur truc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un véhicule qui puisse scanner. Alors, je parle de voiture, donc du coup, je teste un peu tous les véhicules électriques pour voir un peu au niveau du coffre, au niveau du toit, qu'est-ce que je pourrais mettre, est-ce que je peux mettre des caméras, est-ce que je peux foutre des trucs. Enfin,
mais du coup,
pour l'équiper en fait.
Véhicule ventouse, déjà, c'est un véhicule est considéré comme ventouse à bout de combien de temps sans bouger? Il y a une norme pour ça?
Je pense que c'est l'arrêté du maire qui le définit à mon avis.
Ah bah d'accord. Tu pars en vacances, tu reviens, ta voiture elle est à la casse, super, les mecs, je suis parti 3 semaines.
Non mais après, tu vois, c'est là on parle pas de 3 semaines, on parle de beaucoup plus. Hein. Donc puis après on sait très bien que pendant les périodes estivales, tu vois, on est quand même pas con, on va pas dire ah bah tiens les périodes estivales, au bout de 15 jours c'est une véhicule ventouse, non.
Non, vous êtes pas con, mais je te rappelle que ceux qui vont appliquer vos directives, c'est la police municipale. C'est quand même pas des flèches, hein.
Bah si, parce qu'ils sont e-sport grâce à moi maintenant, tu vois.
Ah oui, c'est vrai qu'ils sont e-sport. Ceux de Drancy.
Ah bah oui.
Ceux de Drancy, ils sont e-sport. Ah, c'est vrai.
Ils passent les menottes, mais c'est des menottes RGB.
Bah oui, ah, du coup c'est sympa. Et il y a un petit ventilateur, comme ça tu transpires pas des poignets. On te les brise quand même, mais c'est pas grave. Non, mais c'est cool. En fait, moi j'aime bien, je trouve ça super intéressant tout ce que tu fais, tout ce que tu fais sur la ville de Drancy. Je ne sais pas si du coup ça donne des idées à d'autres municipalités. D'autres communautés de communes.
Ah, si, bah, en fait, mais pas français, c'est ça qui est rigolo, en fait, c'est que j'échange plus avec les villes du monde entier qu'avec les Français.
Ouais.
Donc là, typiquement, j'ai échangé avec les villes de Londres, avec là, il y a le Canada, il y a beaucoup de gens au Québec, des villes de Québécois qui veulent me voir. J'ai échangé avec la Nouvelle-Zélande aussi, j'ai échangé avec la Suède, j'ai échangé. Enfin, voilà,
et tu leur montres quoi entier, ton détecteur de poubelle, ton reconnaisseur de chien?
Bah, j'ai développé pas mal d'applications en fait de smart city, du coup ça les intéresse vachement de. Puis en fait les villes concrètement font pas de cloud en fait, c'est ça qui est assez ouf. Et moi du coup j'essaie de leur expliquer que s'ils faisaient un peu de cloud, bah, leurs idées se concrétiseraient super rapidement, tu vois.
Ouais.
Typiquement on va citer une grande ville de France qui est la plus grande ville de France, tu vois, les mecs te disent ah bah oui on fait du cloud en parlant de leur propre data center, tu vois. Donc c'est tu te dis
ouais c'est pas Là, c'est pas complètement homogène en termes de connaissances.
Non, et puis quand tu leur dis, mais moi je parle de cloud, faire des trucs connectés, tout ça, ils font ah bah non, enfin tu vois, ils sont. Enfin bref. Ouais. Les collectivités locales, quoi. Voilà.
Oh, c'est très. On fera un jour un disquette 100% collectivité locale. On parlera que des trucs que Pentaro met en place et on rigolera tous ensemble. En attendant.
Ça vous fera plaisir, ça vous fera bien marrer, je pense.
Les gens dans le chat s'étonnent, hein, parce que du coup, effectivement, disquette est régulier. Eh oui, c'est ça, la régularité helvétique. On essaie de tenir nos engagements qui sont passés avec personne à part nous-mêmes. Donc, c'est la passion, mais la passion peut nous emmener très loin. Et en parlant de passion, on va raid quelqu'un qui fait ça aussi pour la passion, mais alors qui, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des suggestions, Oni, Penta, de Twitos à raid, là?
Laisse-moi regarder.
Attends, moi aussi, je vais regarder. Moi, j'ai qui, là? Ah, il y a Canard PC.
Ah bah voilà.
Ouais, il y a Canard PC qui est là.
Allez, on peut raid Canard PC, let's go. Ça fait plaisir, ça joue à The Last of Us.
C'est la famille. Il y a Ray Tracing ou pas, Last of Us, ou pas encore?
Je pense pas.
Bah, je vais attendre du coup.
Je pense pas qu'il le soit. Merci en tout cas pour les gens qui se sont abonnés à cette chaîne. Merci pour les follow. Merci également pour les discussions et le fait que vous puissiez répondre au sondage, pourvu que Twitch maintienne le sondage gratuit, même quand les gens dans le chat ne sont pas Twitch partners. Ça pourrait arriver. Il y a des idées qui se font sur d'autres réseaux sociaux, donc attention à ça. On se retrouve, toi, Oni, on te retrouve quand exactement? Demain, après-demain?
Demain après-midi, ouais. Je vais jouer à Sifu, normalement.
Ah ouais, bah putain, faudrait que je leur lance. Il y a un truc qui est sorti, un DLC, ouais.
Il y a un DLC qui est sorti aujourd'hui, ouais.
Putain, Sifu, j'avais Sifu commencé et il m'a tellement cassé la gueule que j'ai arrêté d'y jouer. J'étais écœuré. D'ailleurs, à ce propos, pensez à aller checker dans Steam Drop System Breach, qui est sorti aujourd'hui, qui coûte moins de 10€ et qui est vraiment un jeu super cool sur du hacking, machin, etc. Je pense que nous, on va le streamer demain après-midi, inch Jeff Bezos, si j'ai le temps. Penta, toi, tu n'étais pas sur Twitch, t'en as rien à foutre, donc on te retrouve dans deux semaines.
Ouais, ou sur Twitter, si vous voulez.
Ou sur Twitter, voilà, sur Twitter tout de suite, tant qu'on peut encore tweeter gratuitement. Portez-vous bien, bon appétit à tout le monde, merci de nous avoir suivis, et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Disquette.